السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله عز وجل en cette soirée du samedi 5 Muharram 1435 de l'Hégire, donc correspondant, Inch'Allah ta'ala, attendez, je vois pas la date, au 9 novembre 13 bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc juste on va faire un petit résumé bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Si vous vous souvenez, nous sommes dans le chapitre explication du sens des deux attestations de foi, c'est-à-dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah et ce qui s'y est glissé comme erreur, ainsi que leurs piliers, leurs conditions, leurs implications et ce qui les annule. Tayyib. Ensuite, on va commencer par une chose, Inch'Allah ta'ala. On a vu premièrement la signification des deux professions de foi. C'est-à-dire, on a vu la signification de la ilaha illallah. Ensuite, on a vu la signification de Ashhadu anna Muhammadan alayhi salatu salam Rasulullah. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, on a vu les piliers des deux attestations de foi. On a vu les piliers des deux attestations de foi. Donc, si vous vous rappelez, les conditions des deux professions de foi. Les conditions des deux professions de foi. Donc aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, on va passer au nouveau. C'est-à-dire, on va voir quoi ? On va voir... Une seconde. On va voir les implications des deux attestations. Aujourd'hui, on va voir, Inch'Allah ta'ala, les implications des deux attestations. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un atteste, il dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abdu wa rasulu ». Ça implique quoi ? Est-ce que ce sont deux phrases qui se disent et ça s'arrête là, ensuite je fais ce que je veux, ou bien ça implique des choses ? Sûrement que ça implique. On va voir donc ce que impliquent les deux attestations. En parenthèse, c'est juste une petite faute. Je la corrige. On ne dit pas « an ». On ne prononce pas le « an ».« An la ilaha illallah ». Mais on dit « Allah ». « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ». Surtout pour la première. « Ashhadu Allah ». La ilaha illallah. Comme ça direct. Bon, maintenant on va voir donc les implications de shahadati Allah ilaha illallah et de shahadati, c'est-à-dire anna Muhammadan alayhi salatu salam. Il y a une, deux, trois, non, il y a deux implications. C'est-à-dire d'abord on va voir l'implication de la ilaha illallah, petit 1. Implication de Muhammadun Rasulullah. Donc, qu'est-ce que ça implique quand j'ai dit maintenant, j'ai hâte, est-ce qu'il n'y a de vraie deité que Allah Azza wa Jal? Ça implique le délaissement de l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. C'est ça le sens de la négation, la ilah. Et l'adoration exclusive d'Allah Azza wa Jal que contient l'affirmation illallah. Cheikh Hafidahullah dit, nombre de ceux qui la prononcent la ilaha illallah, qu'est-ce qu'ils font? La contredisent dans ses implications, attribuant une part de la divinisation au tombeau, au mausolée, au tawarit, aux arbres et aux pierres. Ceux-là considèrent que le tawhid, le monothéisme, est une innovation. Le rejette de ceux qui les y invitent et blâme ceux qui vous invitent exclusif à Allah Azza wa Jal. A'udhu billah. Donc, beaucoup, beaucoup de gens ne savent pas que la ilaha illa et aussi Muhammad Rasulullah ont des implications. Ce ne sont pas des phrases qui se disent seulement. Sinon, le perroquet, en disant cette phrase, il serait devenu musulman et irait au paradis. Justement, c'est pourquoi, je dis, c'est pourquoi les kuffars, naam, et l'oncle du prophète, alayhis-salam, et Abu Jahl, et Abu Lahab, et la clique, tous n'ont pas dit cette phrase. Alors, pourquoi ils ne l'ont pas dite? Parce qu'ils savaient que cette phrase, ces deux attestations, avaient une implication. Et que, si c'était seulement des phrases qui se disaient, ça aurait été très facile de dire, Ya Muhammad, viens assieds-toi avec nous. Khlas, on te rassure. Allez, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Khlas, laisse-nous tranquille. Mais ils savent que ça a des implications. S'ils vont dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ça veut dire qu'ils vont délaisser leur, yani, leur tawarit et leur statue et tout ce qu'ils adorent, et les idoles, etc. Donc, les Arabes d'autrefois ont compris, savaient que ce n'était pas deux phrases qui se disent seulement, mais que ça avait des implications. C'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu le dire. C'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu attester ces deux attestations. Donc, Cheikh dit, Hafidhahullah, nombre de ceux qui prononcent la ilaha illallah la contredisent dans ses implications en attribuant une part de la divinisation aux créatures, aux tombeaux, aux mausolées, aux tawarites, aux arbres et aux pierres. Et je dis, beaucoup de musulmans, naam, disent la ilaha illallah, comme vous le savez, et adorent une part de la divinisation, comme a dit le shir, au tombeau, hein, les soufis, etc., au mausolée, hein, c'est très connu chez les soufis aussi, hein, des fois, dans chaque village, il y a comme ça un mausolée où les gens vont comme ça, hein, pour les circonstances, et au tawarit, c'est plus vaste, ça englobe tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. Aux arbres et aux pierres. Une fois, quelqu'un m'a montré en plein centre d'Alger. Je dis en plein centre d'Alger. Une rue qui s'appelle, c'est pas l'Idouche Mourad, c'est l'autre, l'Arbi Ben Mehdi. En plein centre d'Alger. À la fin de cette rue, il y avait une mosquée en face. C'est dans cette mosquée que je priais. Quelqu'un m'a dit, juste là quand tu sors, tu traverses la rue, il y a un arbre. Un arbre que les gens viennent adorer. Il dit, subhanallah, ça fait combien d'années que je suis là, je n'ai jamais remarqué cela. Ensuite, il m'a emmené le voir le lendemain ou là, un arbre, un petit arbre comme ça, que pas beaucoup de gens peuvent remarquer. Quand tu t'approches de lui, il est plein de quoi? De henné. Quand les femmes viennent et yani, lui mettent du henné et demandent à cet arbre, bien sûr, demandent à cet arbre, quoi? Des enfants, de la pluie, de refouler les malheurs, etc. A'oudou billah. Pourtant, si tu vas rencontrer cette personne ou bien cette femme qui va venir là-bas, tu lui dis, toi tu dis pas la ilaha illallah. Elle te dit, a'udhu billah, tu me prends pour un kofar. Moi je dis pas la ilaha illallah. Moi je prie la nuit. Jamais raté le lundi, jeudi, et la prière, c'est moi, siyam ashura. Tu es fou. Je dis la ilaha illallah, je dis cette phrase avant toi. Donc, beaucoup, comme j'ai dit, ne savent pas l'implication de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est l'implication de la ilaha illallah. Deuxièmement, l'implication de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est le messager, cinq choses. Premièrement, lui obéir et le croire. Lui obéir et le croire. Je dis, si le prophète alayhi wa sallam a été envoyé pour qu'on ne lui obéisse pas, à quoi ça? On a cité la fois passée le verset qui dit, et on a envoyé deux messagers que pour qu'il soit obéi, pour qu'on lui obéisse par la permission d'Allah. Donc c'est ça le premier but. Toi, tu n'obéis pas à quelqu'un. Tu ne peux pas prendre de lui ce qu'il veut te dire. Donc d'abord, obéissance et le croire. Si tu ne crois pas aux informations qu'il t'apporte, et dans ton cœur, tu dis que des choses ne sont pas vraies. Il invente des choses. Donc, tu n'as pas cru en cette personne. Nam, donc tu vas pas prendre de lui. Tu dis celui-là de temps en temps, il dit des choses fausses. Donc, c'est la première implication. Lui obéir, alayhi salatu salam, et croire en lui et en ses informations. Deuxièmement, délaisser ce qu'il a dit. Délaisser ce qu'il a interdit. Je dis ici, délaisser ce qu'il a interdit, hein, en reconnaissant le statut interdit. Le statut interdit. Pourquoi j'ajoute cela? Car il est possible qu'une personne délaisse ce qu'a un prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais en disant dans le cœur que c'est pas interdit. Je délaisse juste pour faire plaisir, par exemple. Cette personne, n'am, et quoi? Elle n'est pas devenue musulmane. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas interdit dans son cœur, n'am, l'interdit. Elle a dit non, c'est halal. C'est pour ça qu'il faut bien faire la différence entre celui qui ne pas le haram, le fait, mais si par contre quelqu'un ne délaisse pas une chose parce qu'il ne reconnaît pas son statut, donc celui-là, il a fait yani, du kofre à Oudoubila. On avait dit l'implication de Ashhadu anna Muhammadan alayhi salam Rasulullah. Premièrement, lui obéir et le croire. Deuxièmement, délaisser ce qu'il a interdit. Troisièmement, se limiter à mettre en pratique sa sunna. Se limiter à mettre en pratique sa sunna. Naam. Écris tout le troisième, on écrit. Se limiter à mettre en pratique sa sunna. Dommage, j'ai pas écrit cela, je pensais pas que il fallait écrire ça. Parce que c'est pas expliqué, c'est juste écrit. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Troisièmement, se limiter à mettre en pratique sa sunna. L'implication de Mohammed et les messagers d'Allah. 1. Lui obéir et croire. 2. Délaisser ce qu'il a interdit. 3. Se limiter à mettre en pratique sa sunna. Se limiter à mettre en pratique sa sunna. Quatrièmement. Voilà. Quatrièmement. Abandonner ce qui sort du cadre de la sunna comme innovation. C'est-à-dire s'éloigner des innovations. Quatrièmement, s'éloigner des innovations. Et vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui ils aiment plus ou moins la sunna, les gens de la masse, mais ils font en même temps les innovations. Il n'y a pas quelqu'un qui te dit j'aime pas la sunna et j'aime pas le prophète. Et malgré cela, tu trouves que quoi? Qu'il fait des innovations et il n'est pas soucieux de s'en éloigner. Et c'est pas la peine de vous dire que pour ne pas faire des innovations, il faut avoir de la science. Car si tu ne sais pas que cette chose est une innovation, tu ne peux pas t'en éloigner. Donc il faut demander la science. Et comme vous savez, ce n'est pas tout le monde qui yani, veut et aime la science. Ce n'est pas tout le monde qui veut et aime la science. Cinquièmement, faire primer la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la parole de qui que ce soit. Cinquièmement, faire primer la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la parole de qui que ce soit. Naam. N'importe qui au monde, n'importe qui, s'il dit une chose et que le prophète alayhi wa sallam dit son contraire, il faudrait quoi? Il faudrait faire primer la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dire que c'est lui qui a raison. C'est le prophète alayhi salam sallam et non pas l'autre. Subhanallah al-Azim. Il est impossible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est impossible qu'il dise quelque chose de faux, n'am, dans la religion et dans la chose qui les choses qui lui ont été révélées par Allah subhanahu azza wa jal. Maintenant, on rentre, inshallah ta'ala, dans le cours d'aujourd'hui. C'est très important, inshallah ta'ala. Les annulatifs des deux attestations de foi. On va voir quelles sont les choses qui annulent les deux attestations de foi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Et les annulatifs, d'après le cheikh, hafidhahullah, il en a cité 10. Il en a cité 10. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu dis et tu attestes, tu dis Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. C'est comme si un peu, hein, c'est comme si tu fais des ablutions par exemple. Maintenant que tu as fait des ablutions, il faudrait que tu sois sûr de garder des ablutions si tu veux prier avec. Maintenant, si tu vas aux toilettes ou bien tu fais sortir des gaz, tu as annulé tes ablutions. Il en est de même pour les deux attestations de foi. Ces attestations de foi ont des annulatifs. Donc, conclusion, ça ne suffit pas d'attester des deux attestations de foi, mais encore faut-il les préserver jusqu'à en mourir avec. Sinon, une personne peut dire Shahadu la ilaha illallah, Shahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ensuite les annule. Les annulatifs peuvent être avec le cœur, comme elles peuvent être avec la langue, comme elles peuvent être avec quoi? Avec les membres, nos membres. Avec le cœur, je donne un exemple. Je donne un exemple. Par exemple, je dis dans mon cœur, hein, je dis que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas juste. Je dis que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas sur le trône. N'est pas sur le trône, c'est pas vrai. Et comme ça. Ça rentre dans les annulatifs. Même si j'ai pas prononcé ça avec ma langue, mais j'ai noué ça dans mon cœur. Ça rentre pas dans le hadith que Allah subhanahu wa ta'ala où le prophète Hassan m'a dit que Allah subhanahu wa ta'ala yani a disons ne châtie pas une personne ce qu'elle dit dans son cœur jusqu'à ce qu'elle prononce ou qu'elle fasse. Naam, ça c'est pour les idées qui te passent comme ça dans la tête. Mais si jamais, yani sans les vouloir les retenir, mais si maintenant c'est toi qui, subhanallah al-azim, qui don, yani donne lieu à cette pensée, et ensuite tu noues ton cœur avec, tu attestes dans ton cœur, telle et telle chose. Dans ce cas, c'est grave. Et ce qui peut annuler avec la langue, c'est par exemple d'insulter Allah subhanahu wa ta'ala, d'insulter le prophète, alayhi salam, d'insulter le Coran. Et ce qui peut par exemple annuler avec les membres, c'est par exemple, je prends le Coran et je le jette par terre. Je prends le Coran et je le jette par terre. Non, dans ce cas, j'ai quoi? J'ai annulé mes deux attestations de foi. Maintenant, on va commencer, inshallah ta'ala, une par une, bi'idhnillah ta'ala. Le cheikh Hafidhallah dit, ce sont en fait les choses qui annulent l'islam, car ces deux attestations font rentrer la personne qui les prononce en islam. Les formuler revient à reconnaître leur situation et à s'engager à appliquer ce qu'elles entraînent. Tel l'accomplissement des cultes de l'islam. Lorsque la personne ne tient pas à son engagement, elle rompt le pacte auquel elle a souscrit au moment où elle l'a prononcé. Et les choses qui annulent l'islam sont nombreuses. Et les juristes y ont consacré, dans leurs ouvrages de jurisprudence, un chapitre spécial qu'ils ont nommé le chapitre de l'apostasie, Babur Ridda, le chapitre de l'apostasie. Les principales, les principaux annulatifs sont au nombre de 10. Elles ont été reprises par Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, qu'Allah Ta'ala lui accorde sa miséricorde, qui dit. Premièrement, premier annulatif. L'association à Allah Azzawajal dans son adoration. Shirk. L'association à Allah Azzawajal dans son adoration. On va donner le délit. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Regardez lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما An-Nisa 48. Certes, Allah ne pardonne pas qui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Et quiconque donne Allah à quelque associé, il commet un énorme péché. Naam. Allah Azzawajal ne pardonne pas qu'on lui donne un associé. Naam. Mais à part cela, il pardonne à qui il veut, pas à tout le monde, à qui il veut. Naam. Et quand il a dit, Allah Ta'ala ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, à part cela, il pardonne qui veut. Naam. Quand il a dit qu'il ne pardonne pas à celui qui lui donne des associés ou un associé, bien sûr, tant qu'il n'a pas fait le repentir. Maintenant, s'il fait le repentir, Allah l'accepte et lui pardonne si son repentir est sincère. Naam. Ensuite, ce qui montre aux invités du shirk, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans le Coran aussi, il a dit, regardez ce verset, لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إن من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. المائدة 72. المائدة 72. نعم. Sont ceux qui disent en vérité Allah c'est le Messie, fils de Marie. Alors que le Messie lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ô enfant d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Ensuite, il a dit, c'est ça le témoin du cours, quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. C'est ça le témoin du cours. Quiconque associe à Allah Ta'ala d'autres divinités et meurt sans faire le repentir, il faut ajouter ça entre parenthèses, Allah Ta'ala lui interdit le paradis. Et s'il lui interdit le paradis, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, son refuge sera le feu, au milieu. Car certains yom al-qiyam au milieu, sur comme ça, une montagne, ensuite Allah Ta'ala, certains ont dit, ils auront égalité entre les hasanat et les siyiat. Ça, Allah subhanahu wa ta'ala va leur pardonner et les faire entrer au paradis. Donc, finalité, il n'y a que deux choses. Paradis et enfer. Paradis et enfer. Et ce qui montre aussi que le shirk est vraiment yani, dangereux et grave et que ça annule aussi. Regardez le verset qui va suivre, bi'idhnillahi ta'ala. Le verset qui va suivre, bi'idhnillahi ta'ala. الله تعالى دي ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من خاسرين. زمر 65. Ça, c'est très grave. Regardez ce qu'a dit Allah Ta'ala. Il t'a été révélé à Muhammad, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, tous les messagers avant toi, que si tu t'associes à Allah, ton œuvre sera vaine. Toutes tes œuvres seront annulées. Et tu seras très certainement du nombre des perdants. Donc, c'est quoi le témoin du cours? Témoin du cours, on va dire, si les messagers, et qui sont les meilleurs que personne que Allah subhanahu wa ta'ala aime, les plus proches de lui, et leur tête, Sayyid al-Mursalin, meilleur des messagers, notre prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam, Allah ta'ala leur a dit à eux tous, attention, si jamais il lui a dit, on des associés à Allah, ton œuvre sera vaine et tu seras parmi les perdants. Donc tu iras en enfer. Donc le prophète Hassan lui-même, ni les messagers, ne sont pardonnés s'ils font du shirk à Allah. Pourtant, Allah les aime d'un amour qui n'a pas d'égal. Mais malgré ça, il ne leur pardonne pas s'ils vont faire du shirk. Naam. Dites-moi numéro 1 s'il n'y a pas de coupure, inshallah ta'ala. Dites-moi s'il n'y a pas de coupure. Alhamdulillah. Ensuite, regardez ce que Allah Ta'ala aussi a dit par rapport au shirk, des choses que inshallah Ta'ala j'ai ajouté aussi. Naam, regardez ce qu'il a dit. Regardez. Al-Hajj 31. Normalement, je commence par le verset en arabe. Une seconde. En arabe. Tayyib. Non, voilà le verset en arabe. حنفاء لله غير مشركين به. ومن كأنما خر من سماء فتخطفه إيه دون زي نوتر تخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان ساحق. الحج 31. الله سبحانه وتعالى كيس كي لادي لادي سوايي اكسكلوزيفمون اكي ا لا ريليجيون انسويت الى اي كيكون. نعم جي في ريشيرشي الف دون البروغرام اون سكوند. Il a dit, soyez exclusivement acquis à la religion. D'Allah, ne lui associez rien. Car quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le happaient ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond. Allahu Akbar. Quiconque associe à Allah, comme s'il lui arrivait quoi? C'est comme s'il tombait du haut du ciel. Pourquoi? Pour te montrer que le croyant, c'est comme s'il vivait dans le ciel en haut. C'est comme s'il vivait avec les anges en haut. Mais maintenant qu'il a fait le shirk, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, il est tombé du ciel. Ça, il n'est plus en haut avec les anges, il est descendu. Et dans sa descente, il va pas descendre comme il veut lui, mais en tombant. Imaginez, quelqu'un qui fait du shirk, c'est comme s'il était tombé d'où? Du 10e étage. Non, il est tombé d'elle. Subhanallah al-Adem. Et celui-là, non seulement, qu'est-ce qui va lui arriver quand il va tomber, mais avant cela, déjà, quand il est dans sa chute, il va lui arriver deux choses. Ou bien, des oiseaux vont le happer, ou bien, un vent violent va le quitter dans un abîme très profond. Et toute personne qui fait le shirk et laisse la foi, et fait le shirk, c'est des choses vont le happer, les chayatines. Les chayatines vont le happer, et les amis qui sont pas bien, etc., vont le happer, et être autour de lui, le dévier du chemin. Jusqu'à ce qu'il soit dans un abîme très profond. Il se trouve dans ça, avec les grands châtiments qui l'attendent, et se trouve en enfer avec le plus grand châtiment qui l'attend. Oul'iyadou billah. Ensuite, ce verset où Allah Ta'ala a dit, car associé à Allah, c'est comme si et que les oies le happaient ou que l'on le précipitait dans l'abîme très profond. Hajj 31. Où l'a dit? Où a dit ça? Le prophète sallam, où a-t-il employé ce verset? Il a employé une fois, quand il parlait avec des gens, il a employé. Lorsqu'il a dit cela, une seconde, voilà. C'est ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de parler de la personne qui allait mourir. Et il a divisé la personne qui va mourir en deux personnes, le croyant et le kafir. Ensuite, il a parlé du kafir. Il a dit, quant au kafir, quand il va mourir, voilà et voilà ce qui va lui arriver. Dans un hadith long et authentique que je voudrais lire seulement en français pour gagner du temps. Que je voudrais lire la traduction. Je vais lire la traduction en français, inshallah ta'ala, pour gagner du temps. Une seconde, inshallah ta'ala. Tayyib. Donc, le prophète, alayhi sallam, a dit, ça c'est pour vous citer le verset des oiseaux qui le happent, etc. Il a dit, et le serviteur, quand il est kafir, lorsqu'il est sur le point de quitter ce monde et de passer dans l'autre, des anges au visage noirci descendent du ciel vers lui avec de la bure et des vêtements spécialement de Jahannam, a'oudou billah. Ils s'asseyent avec lui, entre parenthèses, ils sont tellement nombreux qu'ils arrivent jusqu'où porte le regard. Si tu peux voir comme ça à 1 kilomètre, donc il y a 1 kilomètre plein d'anges. Puis vient l'ange de la mort, ce qu'on appelle Malik al-Maut, et non pas Azra'il et Azra'in comme disent beaucoup de gens. Puis vient l'ange de la mort qui s'assoit auprès de sa tête. Ô âme répugnante, sors vers la colère et le mécontentement de Allah Azza wa Jal. Sors pour rencontrer la colère et le mécontentement d'Allah Azza wa Jal. Le prophète a dit, Alors l'âme se répand partout dans son corps, c'est-à-dire elle ne veut pas sortir. Et il l'arrache, l'ange de la mort, il l'arrache comme on arrache une broche de la laine trempée. Ensuite, il l'a saisie et dès qu'il l'a prise, les autres anges présents ne la laissent pas entre ses mains un instant. C'est eux qui vont la prendre, ils la portent à leur tour et la mettent sur cette bure. Écrivez numéro 1 si vous m'entendez. Émane alors d'elle, de sourd. Émane alors d'elle une puanteur comparable à la pire pestilence d'un cadavre qui puisse être trouvé sur terre. Alors, les anges concernés montent alors vers le ciel en l'emportant. Ils ne passent en sa compagnie auprès d'aucun groupe d'anges sans que ceux-ci ne posent la question. Quelle est donc cette âme répugnante? Ils répondent alors, c'est celle de un tel, fils d'un tel. Car on a dit une fois que le ciel était plein d'anges, les cieux étaient pleins d'anges. On avait dit que dans chaque empan, il y avait un ange. L'âme qui était inclinée ou bien prosternée ou bien debout. Donc, quand ils passent ces anges-là avec l'âme du kafir, ils passent devant les anges. À chaque fois qu'ils passent devant les anges, ils leur demandent quelle est donc cette âme répugnante. Ils répondent donc, c'est celle de un tel, fils d'un tel. Et l'homme, en citant les pires prénoms par lesquels on désignait cette personne dans ce monde. Hein, les pires prénoms, le fornicateur, le ceci, le cela, l'escroc, le voyou, et comme ça, le soulard, comme ça, d'après ce qu'il avait comme surnom, jusqu'à ce qu'ils arrivent avec elle au ciel le plus proche. Donc c'est l'ascension, ils ne sont pas encore arrivés au ciel. Maintenant, ils arrivent au ciel le plus proche qu'on appelle nous le premier ciel. Ils demandent la permission d'entrer, car ici ce n'est pas un marché qui veut, il rentre. Non. Les ciels, les sept cieux ont des portes avec le garde Naam. Donc, ils demandent la permission d'entrer avec cette âme et la permission leur est refusée. Alors, le prophète al-Islam cita ici le verset. Il a dit d'abord, il a cité un verset, il a dit, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes. Et ils n'entreront au paradis que lorsque le chameau pénètre dans le chat, le trou de l'aiguille. Sourate 7, verset 40. Donc, ça c'est le premier malheur. Il a dit, les portes du paradis ne leur seront ouvertes et ils n'y rentreront que si le chameau peut rentrer dans le chat. Chat, c'est-à-dire CHAS, le trou de l'aiguille. Alors imaginez, si un chameau peut passer par le chat de l'aiguille, alors un kafir va rentrer au paradis. Alors, ça c'est quoi? Ça s'appelle quoi? Allah Ta'ala aurait pu dire directement, non, les kofars ne rentreront pas au paradis. Mais il veut, yani, ta'jiz, il veut leur lancer, comme on dit, quelque chose d'impossible à faire. Il veut leur montrer que, non seulement vous n'allez pas rentrer au paradis, mais c'est impossible. Parce qu'un kafir peut dire, je rentre pas au paradis, mais peut-être qu'il va m'excuser, je rentre à la fin. Non, il a dit, c'est impossible. Tu ne rentreras que si le chameau peut rentrer. Si le chameau peut rentrer par le trou de l'aiguille, alors toi, le kafir, tu rentreras au paradis. Ensuite, ici, le prophète Aslam a dit, il a cité un autre verset, il a dit, consignez son livre dans le Sijin, au sujet duquel Allah Azzawajal a dit qu'il s'agit d'un livre déjà cacheté, achevé. Le livre des libertins, le livre des libertins, dans la terre inférieure ou profonde. Naam, on avait dit une fois, si vous vous rappelez, que Jahannam se trouvait au plus profond de la terre. Naam, c'est là-bas qu'il y a la prison, Audoubillah des Kofar. Alors le prophète Islam a dit, son âme alors, puisqu'on lui a refusé de rentrer dans le ciel, on lui a refusé de rentrer, qu'est-ce qui va se passer? Alors son âme sera jetée du ciel. Et c'est ici qu'a dit le prophète, il a dit, il a récité le verset, il a dit, car quiconque associe à Allah c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le happaient ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond. Sourate 22, verset 31. Donc pour vous dire que quand on monte avec le kefir vers le ciel et qu'on n'ouvre pas, maintenant on ne va pas le redescendre. Non, on va le jeter du ciel, a'oudou billah. Imaginez quelqu'un qui tombe du ciel. Imaginez quelqu'un qui tombe seulement du dixième étage. Du dixième, ça prend peut-être, disons, je ne sais pas, je dis de ma tête, ça, disons 50 secondes pour qu'il arrive au sol. Qu'est-ce qu'il va penser pendant les 50 secondes, subhanallah l'adhim. Imaginez-vous en train de tomber, qu'est-ce que vous allez penser, subhanallah. Imaginez maintenant le kafir qui tombe du ciel, des milliers, des milliards de kilomètres, subhanallah l'adhim, qu'il va tomber. Son âme est donc ramenée à son corps. Naam. Et deux anges viennent alors et le font asseoir et lui demandent, qui est ton Seigneur? Il répond, ah, ah. C'est-à-dire, il s'étonne, ah, ah, vous me posez cette question. Je n'ai jamais pensé à ça, subhanallah. Ensuite, il dit, je ne sais pas. Il lui dit ensuite, quelle est ta religion? Il réplique, ah, ah, il essaie de comprendre, hein? Ah, ah, je veux comprendre, je ne sais pas. Il le questionne encore, qui est cet homme qui a été envoyé vers vous? Il dit, ah, ah, je ne sais pas. Alors un appel est lancé du ciel, Allahu Akbar. Du ciel, on va entendre qu'il y a une phrase. C'est quoi cette phrase? Il a menti. Il a menti. C'est-à-dire, il a menti. Il n'a pas suivi le messager. Il ne m'a pas suivi, moi, Allah Azzawajal. Il n'a pas suivi l'islam. Il a menti. Tapissez donc l'enfer pour lui. Dans la tombe, mettez-lui un tapis de l'enfer. Subhanallah, dans la tombe. Ça suffit pas qu'il soit dans 1 mètre sous le sol, mais ça suffit pas. Mettez-lui un tapis de l'enfer. Ensuite, ouvrez-lui une porte vers le feu. Ouvrez-lui une porte dans la tombe pour qu'il puisse voir le feu. Le feu. Lui parviennent alors les effets de sa chaleur et de son vent brûlant. Sa tombe se rétrécit sur lui au point où ses côtes se retrouvent emboîtées les unes dans les autres. Alors un homme au visage laid, mal vêtu et puant vient auprès de lui et lui dit, accepte la nouvelle qui va te déplaire. Voici le jour qui t'avait été promis. Alors le mort dira, qui es-tu? Ton visage est celui de la personne qui apporte le mal. Il va lui répondre, je suis la matérialisation de tes œuvres malsaines. Tout ce que tu faisais ici comme œuvre malsaine, l'alcool, la zina, etc., etc., Allah Ta'ala les a transformés en choses matérielles que tu puisses voir. Alors le défunt demandera alors, ô mon Seigneur, là il reconnaît qu'il y a le Seigneur, hein? Ô mon Seigneur, ne fais pas survenir l'heure dernière. Ô mon Seigneur, ne fais pas survenir l'heure dernière. Parce qu'il sait que ça c'est un préambule. Et ce qu'il attend c'est encore beaucoup plus grave. C'est pour ça que il voudrait refouler le plus grand mal en faisant, je voudrais bien rester dans la tombe malgré tout ce qu'il y a de châtiment, mais seulement ne pas aller vers la rencontre d'Allah Azzawajal, car je sais qu'il m'attend là-bas quelque chose d'horrible. Naam. Et ce, apparemment, afin qu'il ne soit pas jugé définitivement et qu'il n'ait pas à supporter les tourments encore beaucoup plus terribles. Al-Muhim. On revient, inshallah ta'ala, à ce qu'on disait. On disait donc, ça c'est le shirk, a'oudou billah, pour le shirk. Le shirk, hafidhahullah dit, parmi les formes d'association à Allah Azzawajal, il va citer ici 8 ou 10 formes, ou encore plus. Il a dit la première, naam, c'est quoi? Il y a le fait d'immoler pour autre que lui. Parmi le shirk, on va citer certaines formes de shirk les plus connues. Le fait d'immoler pour autre qu'Allah Azzawajal. Naam. Comme par exemple le fait d'immoler pour les mausolées, ou bien d'immoler pour les djinns. Et comme ça. Naam. Des fois le djinn, comme vous savez que, elle travaille avec les djinns. Tant que des fois elle rapporte des choses sur l'avenir. Naam. Pourquoi? Elle travaille avec ce qu'on appelle les esprits. Les esprits, nous on appelle ça les djinns. Mais cet esprit-là et ce djinn, pour qu'il te donne des informations, qu'il te dise ce qui s'est passé. Non. c'est pas pour tes beaux yeux, comme on dit, c'est plutôt parce qu'il a un intérêt avec toi. Quoi là, tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il se trouve pas demain tout seul en enfer. Il voudrait prendre le maximum de gens avec. Donc, qu'est-ce qu'il te demande? Il te demande de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, si c'est possible, de quoi? D'immoler pour lui. Il te dit, si c'est possible, un mouton comme ça ou une poule, n'importe quoi pour moi. Et moi je sais ici en Algérie et au Maroc qui ont utilisé partout dans les pays arabes, surtout le tiers-monde là, le Maghreb, si elles ont un jour, se rencontrent avec le chef des djinns. Naam. Et ils lui mettent comme ça un grand fauteuil avec des trucs là, ou quelque chose comme ça, rouge, si le djinn, le grand djinn, et se la place vite comme ça, et toutes les femmes, toutes les sorcières se réunissent là-bas pour honorer et prendre un mouton ou ou n'importe quoi. Naam, c'est lui qui décide. Ensuite, il l'immole pour lui. Ils font ça, je crois, une fois par an, pour qu'ils soient ravis d'eux et leur donnent des informations et les aident bien sûr à faire argent et à voler les gens. Nous préserver des sorciers, des sorciers. Cinquièmement, placer des intermédiaires entre le serviteur et Allah Azza. Placer des intermédiaires, serviteur et Allah Azza wa Jal. Il a dit, Cheikh dit, celui qui met entre lui et Allah Azza wa Jal des intermédiaires, les invoque, leur demande l'aide et place sa confiance en eux. Celui-ci aura mécru à l'unanimité. Non, celui-ci aura mécru à l'unanimité. Il a dit, il place des entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Et il leur demande l'intercession. Il va à la tombe et lui dit, écoute, X des gens, voilà, je te parle, je sais que tu étais faisais des prier la nuit, etc., etc. Je te demande d'intercéder demain à moi, de m'intercéder demain. Donc en islam, il n'y a pas d'intermédiaire, la personne. J'avais perdu le micro, je ne sais pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi en islam il n'y a pas d'intermédiaire? Comme dans le christianisme, il faut aller chez le curé, c'est lui l'intermédiaire, et lui demander qu'il demande à Allah subhanahu wa de pardonner. Chez nous, non. Chez nous, non. Allah Ta'ala dit dans le Coran, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi, afin qu'il soit bien guidé. On n'a pas besoin d'intermédiaire. On n'a pas besoin de quelqu'un qui va quoi? De quelqu'un, yani, qui va intercéder entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est Yom al-Qiyamah, avec le prophète aslam et les anges et les croyants, etc. Mais pas dans cette dunya. Dans cette dunya, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, on lui demande directement. On lui demande directement à lui, sans passer par un intermédiaire. Donc, c'est dommage pour les chrétiens, qui ne peuvent pas être parlés, sauf s'ils vont voir le curé et je ne sais pas lui donner un cadeau, je ne sais pas quoi, pour qu'ils demandent Zama à Allah subhanahu wa ta'ala de leur pardonner. Al-Muhim. Ça c'était quoi? C'était donc deuxièmement. Troisièmement. Troisième annulatif. Troisième annulatif. Ne pas considérer les polythéistes comme mécréants. Troisième annulatif. Ne pas considérer. 3, pas 4. Donc j'ai écrit quoi? J'ai écrit 4. Donc c'est moi qui me suis trompé. D'accord. Ahsante, ne pas considérer les kafirs comme kuffar. Tu vois quelqu'un qui est kafir. Il a la croix. C'est un bouddhiste. Tu le vois en train de se prosterner à son Bouddha. Et tu dis, j'ai des doutes. Ou alors tu dis, peut-être Allah Ta'ala va lui pardonner au Qiyamah. Ou bien tu dis, Allah Ta'ala regarde dans les cœurs, l'essentiel c'est des cœurs. Et comme ça. Beaucoup de gens disent comme ça, des Johal. Te dis, il y en a même qui te disent, écoute, faut pas juger. T'as pas le droit de juger. C'est le Seigneur qui juge, pas toi. C'est pas toi qui peux faire entrer des gens ni en enfer ni au paradis. Il faut te taire. Subhanallah l'adhim. Naam. Je ne juge pas pour les gens, mais je juge pour moi. Pour moi, cette personne, donc, étant un kafir, donc, ça veut dire que je dois le considérer comme kafir. Je dois le considérer comme kafir. Qu'est-ce qu'il a dit ici, hein? Attendez, on va citer une chose. Certains disent par exemple que comment ça se fait? X des gens a fait beaucoup de bien pour l'humanité. Il commence à citer des personnes, je ne sais qui, Pasteur. Te dis qui a trouvé le vaccin de la rage, si ce n'était pas Pasteur. Et s'il n'avait pas trouvé ce vaccin, qu'est-ce qui serait arrivé à l'humanité, etc. Donc celui-là, sûrement que Allah Ta'ala va le faire entrer au paradis. Comme ça certains disent, les Juhel, les gens de la masse, ceux qui n'apprennent pas. Qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit le verset qu'on a cité tout à l'heure. On leur dit, bon, il avait été croyant ou il était kafir. C'est tout ce qui est important chez Allah subhanahu wa ta'ala. Les biens qu'il a faits, Allah Ta'ala l'a récompensé dans cette dunya. Allah Ta'ala lui a donné des enfants, lui a donné de l'argent, lui a donné des biens, lui a donné des yeux, lui a donné des mains, lui a. Un. Le hadith est authentique du prophète al-Islam que les kuffars, Allah subhanahu wa ta'ala, ici, tout ce qu'ils font comme bien, il leur donne la récompense ici. D'ailleurs, le hadith que vous connaissez tous, authentique, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce bas monde, c'est quoi? C'est le paradis du kafir. Donc, Pasteur et la clique, Allah Ta'ala leur a donné le paradis. Alhamdulillah, ils ont eu leur paradis. Allah Ta'ala n'est pas injuste. A'udhu billah. Naam. Tayyib. Ici, on va ajouter encore quelque chose comme ça. Allah Ta'ala a dit: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam dinan. Al-Ma'idah 3. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour votre religion, pour vous, votre religion, et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. J'agrée l'islam comme religion. Il n'y a pas une autre religion. Toutes les autres religions étaient vraies en leur moment, en leurs époques. Maintenant, elles ont été abrogées. Elles ont été abrogées par l'islam. Oui, mais quelqu'un va dire, Allah Ta'ala dit, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Pour vous les musulmans, pas pour nous les chrétiens, c'est pour vous. Il a agréé l'islam pour vous, pas pour nous. D'accord. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset: Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min khasirin. Et quiconque désire une autre religion que l'islam, ce ne sera point accepté de lui et sera donc au-delà parmi les perdants. En arabe, il a dit wa man, man. Men, ce mot-là, men, ça s'appelle min al-fadl-umum. Il implique la généralité, la globalité. D'ailleurs, il a dit quiconque désire une autre religion que l'islam, quiconque, qu'il soit noir ou blanc, qu'il soit chrétien, bouddhiste, algérien, français, marocain, quiconque désire une autre religion que l'islam, ça ne sera pas accepté de lui. Et il sera dans l'au-delà, en enfer, parmi les perdants. Donc, aucune personne n'a une excuse de nos jours pour dire que yani, l'islam c'est pour les Arabes ou pour je ne sais qui. D'ailleurs, l'islam c'est quoi? C'est la soumission. La soumission à Allah Azzawajal et lui vouer un culte exclusif en lui obéissant et en délaissant ce qu'il a interdit, en croyant à tous ses messagers, comme quoi le dernier c'est Mohammed Al-Salam et aussi un chrétien quand il veut rentrer en islam, il doit attester aussi quoi? Que Isa alayhi, Jésus n'est pas le fils d'Allah, s'il a testé autrefois qu'il était le fils d'Allah, ou alors qu'il était lui-même Dieu. Dans ce cas, il doit dire non. Il atteste que Isa aussi, c'est le serviteur d'Allah, et c'est un messager, et non pas Dieu lui-même. Taïb. Ensuite aussi, on va ajouter quelque chose aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Muslim: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي أو بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Je jure par celui dont mon âme est dans sa main, qu'aucun juif chrétien de cette communauté n'entend parler de moi et qu'il ne croit pas dans ce que j'ai apporté sans qu'il ne soit parmi les habitants du feu et de l'enfer. Vous avez compris? Aucun juif, ni chrétien, ni autre, ni bouddhiste, ni ceci, ni cela, bien sûr, ni autre. Mais il a parlé des juifs et des chrétiens, ce sont les plus nombreux et les plus connus de notre temps, du temps du prophète, alayhi. Donc, je dis, aucun juif ou chrétien n'entend parler de moi. Ensuite, il ne croit pas en moi sans qu'il ne soit, yawm al-qiyamah, parmi les gens de l'enfer. Juste une petite remarque. Ici, les savants ont dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit que le juif ou le chrétien qui n'entend pas, qui entend de moi et qui ne me suit pas, il va rentrer dans l'enfer, il a dit, à condition qu'il l'entende de moi, yani, avec ma vraie description. Vous avez entendu? Il l'entend parler de moi avec ma vraie description. Comme quoi je suis le messager, j'ai tel et tel cas, et je suis le meilleur, et je suis cela, et je suis le généreux, je suis cela et cela. Naam, c'est un malade. On entend de lui, a'oudoubillah. Comme j'ai entendu une fois une femme dire dans une vidéo, a'oudoubillah, c'était un pédophile. A'oudoubillah, a'oudoubillah, a'oudoubillah. C'est pour ça que vous savez, je sais pas si vous savez cette chose. En islam, supposons qu'une personne, il y a deux personnes, deux croyants. Une personne a quoi? A insulté Allah Azzawajal, l'incroyant. Il a insulté Allah Azzawajal. Et le deuxième a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le juge, ou là, quand il a entendu, ou là, il est allé, yani pour disons, punir ces deux personnes. Hein? Mais le premier, avant que le juge ne soit au courant, celui qui a insulté Allah, a fait le repentir. Que doit lui faire le juge? Il ne lui fait rien. Pourquoi? Parce qu'il a fait le repentir. Allah Ta'ala est pardonneur. Non, mais il a dit que je pardonne celui qui fait les péchés. Il n'est pas mort. Donc, on accepte de lui et on ne lui fait rien. Peut-être qu'on peut lui faire quelque chose pour juste dans le sens où les autres gens ne fassent pas comme lui, pour qu'il ne soit pas un modèle. Seulement en ce sens, mais pas dans le sens que parce qu'il a insulté. Et le deuxième qui a insulté le prophète, qu'est-ce qu'on doit lui faire? Le juge a entendu de lui maintenant, ou bien même avant qu'il entende, on doit quoi? Il doit être tué. Même si quoi? Même s'il a fait le repentir, il va dire, monsieur le juge, je jure par Allah le Tout-Puissant que j'ai regretté et que j'ai fait le repentir, et Allah Ta'ala est témoin qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur. Que doit lui dire le juge? Non. Le repentir, tu l'as fait, tu l'as pas fait, c'est pas notre problème. Mais tu as insulté le prophète islam, tu dois mourir. C'est comme ça en islam. Si quelqu'un va dire, qu'est-ce que ça veut dire ça? Le prophète islam, yani, son statut est plus important qu'Allah Azzawajal. Allah Azzawajal, tu l'insultes, tu fais le tawbah, on t'excuse. Et le prophète, on t'excuse pas, c'est quoi ça? On lui dit, le secret, c'est quoi? C'est qu'Allah est vivant. Si tu as dit vrai, il va te pardonner. Si tu as dit faux, tu vas être châtié. Mais le prophète n'est pas vivant pour qu'on lui demande s'il te pardonne. S'il dit, Rasulallah, il t'a insulté. S'il dit, pardonnez-le, c'est mon droit. Je me désiste de mon droit, je ne le punis pas. Pardonnez-le, pardonnez-lui. Il a pardonné à certains gens en son époque qui l'ont insulté. Ça veut dire que ça se termine là. Et s'il dit non, tuez-le, on le tue. Mais là, le prophète Aslam n'est pas présent. On ne peut pas savoir s'il t'a pardonné ou pas. Donc, tu dois mourir, bidna ta'ala, et yom al-qiyama, s'il t'a pardonné, alhamdoulilah. Subhanallah al-azim. Mais c'est grave. Donc, ça c'était quoi? On parlait de quoi? Non. Celui qui ne considère pas. Non, je voulais dire que. Donc, il faut que la personne ait entendu, yani, des quoi? De la description, la vraie du prophète sallam, et ne l'a pas voulu croire en lui. J'ai entendu une fois Cheikh Al-Albani rahimahullah dire, les tablighis de nos jours, il a dit, ils ne connaissent pas, yani vraiment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, qu'en est-il des rawafid qui l'insultent, etc. Qu'en est-il des kuffars, de beaucoup de kuffars? Naam. Al-Muhim. Ça, c'était troisièmement normalement. Quatrièmement, naam. Alhamdoulilah, j'ai écrit aussi quatrièmement. Quatrièmement, celui qui croit qu'une autre voie, hadith, une autre voie, autre que celle tracée par le prophète, est meilleure que la sienne. Ou qu'il y a un jugement qui est meilleur que le sien. Toute personne qui croit qu'il y a une autre voie dans le sens de, disons, mode de vie. Naam. Ou là, un chemin qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un autre, à part celui du prophète sallam, qu'il est meilleur que celui du prophète sallam. Ou bien, il y a quelqu'un qui juge sur une chose et le prophète sallam a jugé sur la même chose par le contraire. Toi, tu dis, le jugement de cette personne est mieux que le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme la personne qu'on a citée la fois passée. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, naam, question d'eau à son cousin Zubayr, le fils de la sœur de son père. Le prophète Azam, quand il les a vus se disputer sur l'eau, il a jugé. Il a dit, c'est toi Zubayr qui prends le premier. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est énervé. Il a dit, non, c'est ton cousin. Car c'est ton cousin, tu as jugé. Il n'a pas accepté son jugement. Naam. C'est pour cela que si une personne n'accepte pas son jugement, ou bien dit que le jugement d'une autre personne est mieux que le jugement du prophète, alayhi, il a quoi? Il est devenu kafir, a'oudou billah. Il est devenu kafir, a'oudou billah. Naam. Il a dit, le cheikh Hafidh a dit ici, comme c'est le cas de ceux qui préfèrent le jugement des tawarites au jugement du prophète, sallam, et préfèrent le jugement des lois humaines, à celui du droit islamique. Il y a des gens qui préfèrent le jugement des lois humaines que l'être humain a fait. Que l'être humain, yani, met des lois. Non, des lois dans le parlement, etc. Ensuite, ces lois sont votées, etc. Il y a des gens qui préfèrent les lois des êtres humains aux lois d'Allah Azzawajal et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si quelqu'un préfère une loi humaine à la loi divine, il est devenu kafir. Mieux encore, mieux ou la pire. S'il dit seulement, je ne préfère pas la loi, mais je dis qu'elle est égale. Elle est égale à la loi divine. Il dit c'est la même chose. Dans le cas, il est devenu aussi kafir. Il est devenu kafir. Subhanallah al-Azim. Juste tu dis que c'est la même chose. Quoi tu es devenu kafir? Tu as mis à égalité, à pied d'égalité, Allah, le créateur et la créature. Tu as dit les deux, leurs lois, yani, sont les mêmes. Tu choisis, tu peux choisir celle-là ou bien celle-là. Tu es devenu kafir. Tu ne seras croyant que lorsque tu diras la loi d'Allah Azzawajal, nam, c'est elle la meilleure et il n'y a de loi que sa loi. Toutes les autres lois sont nulles si elles contredisent bien sûr la loi d'Allah Azzawajal. Maintenant, si c'est une loi qui dit par exemple que c'est interdit de passer par cette rue, il y a un sens interdit. Ou bien c'est interdit par exemple de pêcher ou de chasser de tel mois à tel mois. Ça ne contredit pas la loi d'Allah. Pourquoi? Tu veux préserver la progéniture. Tu ne veux pas que yani, ces oiseaux, etc., soient tués. Donc tu as fait une loi juste pour préserver. Car Allah Ta'ala aime yani, qu'on ne fasse pas d'injustice aux oiseaux, etc. Non, ce ne sont pas des lois qui contredisent la charia. On parle des lois qui interdisent, enfin, qui contredisent la charia. Enfin, il reste cinquièmement. Cinquièmement maintenant. Cinquièmement. A'oudou billah. Eh, les frères musulmans. Ikhwan mouflisoun. Comme ça, ils appellent les ulama mouflisoun. Ça veut dire ils ont fait faillite. Ils ont fait faillite. Non. Le frère musulman, il est avec la barbe et le qamis tant que il n'a pas encore pris un poste. Dans le gouvernement et l'État. Dès que l'État l'appelle et lui donne un poste, la première des choses, il rase la barbe. jette le camis, met la cravate et il enlève tout. Et peut-être, je sais pas, il va tendre la main aux femmes, ça rentre bien sûr, et peut-être même il va ajouter une cigarette et je ne sais pas quoi. Non. Il se transforme. C'est pour ça que Cheikh Al-Albani, rahimahullah, députation, qu'est-ce que vous voulez faire? Ils ont dit, on veut rentrer là-bas pour transformer. Transformer des choses qu'il y a, les lois, etc. Et tout ce qu'il y a, les lois, des kofars, les mettre, et à les transformer en lois divines. Ils sont rentrés. Il leur a dit, attention, il ne faut pas rentrer, ils sont rentrés. Ensuite, Cheikh rahimahullah leur a dit, ils sont rentrés pour transformer, ils se sont transformés. Comme ça, rahimahullah. Il a dit, ils sont rentrés pour changer. Ils ont changé. Non. Moi, je connais quelqu'un ici en Algérie, je cite pas son nom, très connu. Avant de rentrer dans la politique, il montait sur le minbar, avec une barbe qui arrivait presque au nombril, avec le kamis, avec le burnous sur le kamis, il faisait la ruqya, qal Allah, qal al Rasul, qal al Sahaba, ceci, cela. Il est rentré député, ensuite il est devenu ministre. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Non. Il a tout délaissé, a'oudou billah. Il reste bien sûr la salat, c'est sûr que peut-être il prie, c'est sûr. Mais jamais maintenant, ni qala Allah, ni qala Rasoul, ni peut-être il ouvre un livre, ni il dit un verset, ni. Seulement, yani, les avantages d'être dans le poste de ministre, les avantages, la dunya, la dunya, la dunya, la dunya, costume, cravate, et la dunya. La preuve, ils sont au pouvoir en Tunisie, ils font pareil. Ben Ali à la frontière, avec l'arrière, ils le font demi-tour. Non, mais ils sont partout, les frères musulmans, partout dans le monde, ils n'ont jamais réussi. Et, autre chose, ils ne réussiront jamais de leur vie. Si quelqu'un va dire pourquoi? C'est simple. Ils ne sont pas sur le chemin qui, le chemin qui, ou la dont, si on l'emprunte, on arrive. Ils sont sur un chemin faux. Un chemin qui, si tu l'empruntes, tu vas pas arriver à bon port. Voilà. Il y a un chemin qui a été tracé par le prophète qui te dit que tu vas, bi'idhnillah ta'ala, arriver à bon port. Et comme a dit Cheikh Al-Albani rahmoullah, il a dit, l'essentiel, quand on est sur le droit chemin, ce n'est pas d'arriver au bout, mais de mourir sur le droit. C'est ça l'essentiel. Quand tu es sur le droit chemin, l'essentiel, c'est pas d'arriver au bout, mais de mourir sur le droit chemin. Même si tu n'arrives pas, yani, tu n'as pas de résultat dans ta da'wa, etc. Naam. Alhamdulillah. Al-Muhim. Nous sommes maintenant cinquièmement. Cinquième annulatif. Cinquième annulatif. Celui qui éprouve de l'aversion et de la haine, ou de la haine, envers un des principes ou préceptes que nous a transmis le prophète, même si on le pratique. Allahu Akbar. Celui qui éprouve de la haine ou bien de l'aversion envers un des principes ou des préceptes ou des lois que le prophète nous a transmis, même s'il le pratique. J'ai dit bien, même s'il le pratique. Je donne un exemple très simple pour que vous compreniez. Le siwak. Le siwak, c'est quoi? Un petit bâton qu'on enlève d'un arbre qui s'appelle arak. Un bâton. Si tu vas dire quoi? C'est quoi ce siwak? C'est quoi ce tmeskhir? Je sais pas comment on dit ça, tmeskhir. C'est quoi ce siwak-là? Naam. Tout le temps dans la bouche en train de. Hein, maintenant, les gens. Monte à Mars, monte sur Mars et sur je ne sais quoi, et celui-là est toujours avec Siwak dans la bouche. C'est quoi ce Siwak? Il est devenu kafir. Si une personne dit comme ça, il est devenu kafir. Même, je dis, même si la personne qui a dit cela, elle a un Siwak. Elle a un Siwak, et quand elle va prier, elle fait le Siwak dans sa bouche. Allahu Akbar. Vous avez compris? Si tu as de la haine envers quelque chose de la charia, ou de la sunna du prophète, même si tu l'as fait, tu es kafir. Même si tu l'as fait. C'est comme par exemple, l'exemple que j'ai toujours donné. Une femme va mettre le djilbab en le détestant. En disant, A'oudhou billah, c'est quoi cet habit de je ne sais pas quoi. Elle va dire un mot qui n'est pas bien. Et ensuite, elle va le mettre. Quand on la voit, on la voit avec le djilbab. Mais elle est kafira. Si elle meurt, elle rentre éternellement en enfer. Et la deuxième, qui est en face d'elle, n'a pas mis le djilbab. Elle est en mini-jupe. Elle est en mini-jupe et on voit ses cheveux. Et elle a dit quoi? Elle l'a dit, c'est-à-dire verbalement ou bien dans son cœur. Elle dit, le djilbab, c'est vrai. Il a été recommandé par Allah, c'est dans la charia, mais yani, je ne le mets pas maintenant. Ou alors, je suis dans la contrainte, ou alors je ne peux pas, ou alors ceci, ou cela, ou alors plus tard, ou quand je me marie, celle-là, elle est toujours une musulmane. Et l'autre, qui a mis le djilbab, elle est kafira. Vous voyez la différence, pourquoi? Ce qu'il y a dans le cœur. La première, celle qui a mis le djilbab, elle a dans le cœur la haine, elle déteste ce djilbab. Attention, détester, c'est pas dans le sens de le trouver, par exemple, lourd, le trouver gênant, c'est pas comme ça. Non, le détester, de dire, Aoubillah, c'est quoi cet habit de, je ne sais pas quoi, elle dit un mot qui n'est pas bien. Non, elle le déteste. Celle-là, elle est kafira même. Et l'autre, elle est musulmane, même si elle ne le met pas. Tant qu'elle reconnaît son statut, bi-idhna subhanahu wa azzawajal. Regardez ce qui va venir. Allah Ta'ala dit, c'est parce qu'ils ont de la répulsion pour ce qu'Allah a fait descendre, alors il a rendu vaines leurs œuvres. C'est parce que ils ont de la répulsion, c'est-à-dire la haine et de l'aversion envers une chose qu'Allah a fait descendre. Alors quoi? Alors il a rendu vaines leurs œuvres. Toute personne qui déteste une chose que Allah Ta'ala a légiféré, ou bien que le prophète a légiféré, transmis, il devient quoi? Il devient kafir. Et toutes ses œuvres deviennent vaines, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Taïb, est-ce que vous m'entendez? Vous ne m'entendez pas? Pour terminer ce qui reste. Alhamdoulilah, le sixième annulatif, bi-idhnillah, le sixième annulatif. Celui qui tourne en dérision quoi que ce soit de la religion, la récompense d'un acte ou sa punition. Non. Celui qui tourne en dérision et en moquerie, quoi que ce soit de la religion, que ce soit la récompense par exemple d'un acte ou bien sa punition, celui-là est kafir. Non. Celui qui se moque de la religion ou d'une chose de la religion. En disant de la barbe par exemple, il dit de la barbe, il dit c'est la barbe de la chèvre. Quand il voit un barbu comme ça, il dit, regarde la barbe de la chèvre. Quand il voit le djilbab, il dit, regarde, c'est, je ne sais pas, autrefois ici chez nous, il disait la 404 bâché, 404 Batman. Quand il voit, voilà, quelqu'un qui a le niqab, il dit Zorro. Autrefois, à notre époque, il n'y avait pas Batman, il y avait quelqu'un de très connu qui s'appelait Zorro. Il montrait juste ses yeux. Non. Et comme ça, quelqu'un qui, si tu lui dis pourquoi, il te dit je plaisante. Je dis non, je plaisante, je suis en train de plaisanter. Celui-là, il est devenu kafir. On n'est pas dans la religion. Ensuite, il a dit ici que ce soit la récompense d'un acte ou bien sa punition. La récompense, c'est l'exemple de, par exemple, là, je vous donne un exemple. Parce que, comme vous savez, quand j'explique ce livre, Bi'idhnillahi ta'ala, il y a beaucoup de choses que le cheikh yani, n'a pas expliqué, disons, n'a pas donné d'exemple. Et je donne d'après ce que je sais, Wallahu ta'ala alam. Je dis, se moquer par exemple de la récompense, supposez que vous dites à quelqu'un, vous lui dites, tu sais, quand tu fais le wudu, tu termines le wudu, tu dis, shahadu la ilaha illallah, shahadu, vous savez, ni on regarde le ciel, ni on lève son petit doigt, l'index, on ne lève pas l'index, ni on regarde le ciel, le muhim. Quand on termine le wudu, tu lui dis, si tu dis, Shahadu la ilaha illallah, Shahadu Muhammad al-Abdu wa Rasulullah, les huit portes du paradis vont s'ouvrir. Les huit portes du paradis vont s'ouvrir, c'est-à-dire pour t'accueillir. C'est-à-dire que Allah Ta'ala est ravi de toi. Si tu meurs à cet instant-là, Alhamdoulilah, huit portes du paradis t'attendent. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, arrête, arrête, tes moqueries. Où sont les huit portes? Je ne vois aucune. Où est-ce qu'elles sont? C'est pas vrai ça, il te dit, c'est des blagues, tout ça. Non. Il est devenu kafir. Pourquoi? Il quoi? Il s'est moqué de la récompense, d'une des récompenses, yani, comme a dit ici le cheikh, d'un acte. Ou bien sa punition. Il se moque de la punition. Tu lui dis, le voleur, s'il vole, on lui coupe sa main. S'il vole plus de, bien sûr, plus de 5 grammes d'or. Robert Dinar. ربع دينار عفوا 1,25 غرام دور. Oh, il te dit, c'est quoi, yani, le voleur, vous lui coupez la main, subhanallah al-azim, vous êtes des barbares, vous êtes ceci. Et il commence à se moquer. Il commence à se moquer. Non, celui-là, il est devenu kafir. Celui-là, il est devenu kafir. D'ailleurs, Allah ta'ala dit dans le Coran, on va voir s'il y a ce verset, dans le Coran, regardez ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين بأنهم كانوا مجرمين التوبة 65 و66 بإذن الله تعالى. Et si tu l'interrogeais, il dirait très certainement, vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. Dis, est-ce d'Allah, de ces versets du Coran et de son messager que vous moquiez? C'est de lui, vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru, après avoir cru. Des kofars. Si nous pardonnons une partie des vôtres, nous en châtirons une autre pour avoir été des criminels. Pourquoi Allah, une fois, il partait yani, vers yani, une bataille, et avec lui, il y avait les munafiqun, les hypocrites. À leur tête, il y avait le très connu Abdullah ibn Ubay ibn Abi Salul, le très connu. Alors, il a commencé à dire à leurs amis, il a dit, on n'a jamais vu des gens qui aiment manger plus que le prophète aslam et ses compagnons, qui aiment manger et qui mentent. Sont des menteurs et qui sont des peureux s'ils rencontrent l'ennemi. Donc ils ont accusé le prophète sallam et ses compagnons de trois choses. Ils mangent beaucoup, comme des animaux, et ce sont des menteurs, ils mentent, et quand ils rencontrent les ennemis, ce sont des peureux et des lâches. Allah Ta'ala a fait descendre alors deux versets. Il a dit, et si tu vas les interroger, pourquoi vous avez dit cela? Ils vont dire, nous ne faisions que bavarder et on plaisantait, c'est tout. Mais là, qu'est-ce qu'il a dit? Azzawajal, ils sont messagers que vous moquez? Ne vous excusez pas. Vous avez bel et bien mécru. Ça y est, vous êtes devenus des kofars. Quelqu'un va dire, mais ils n'ont été jamais croyants. Pourquoi il a dit avoir cru? Ce sont des hypocrites. L'hypocrite n'est pas croyant. On va leur dire, ce sont des croyants par rapport à nous les musulmans. C'est pour ça que le prophète Hassan ne les a pas tués. Et il est dans les cimetières des musulmans. Vous avez compris? Donc ce sont des croyants pour nous. El-Mohim, donc, celui qui plaisante dans le dîn et dit, vous après s'excuser, on lui dit, tu es devenu kafir. Va faire la tauba du kofr et rentre de nouveau en islam. Après, on va voir, inshallah ta'ala. Pourquoi? Il n'y a pas dans le dîn, on plaisante. Et on se moque et on rit. Naam. Tayyib. Septièmement, on va terminer, inshallah ta'ala, un peu plus vite. Septièmement, la magie. La magie. Tandis qu'il y a un verset ici où il n'y a pas, une seconde. Voilà le verset, inshallah ta'ala. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون البقرة 102 البقرة 102 Ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Suleyman, alors que Suleyman n'a jamais été mécréant. Mais bien les diables. Ils enseignent aux gens la magie, ainsi que tout ce qui est descendu aux deux anges, Harout et Marout, à Babel. Mais ceux-ci, c'est-à-dire les deux anges, n'ont enseigné rien à personne qui n'ait dit d'abord, écoutez, nous ne sommes qu'une tentation, ne sois pas mécréant. C'est ça le témoin. Ne sois pas mécréant en apprenant quoi la magie. Ça veut dire donc faire la magie et l'apprendre, fait rentrer la personne dans la mécréance. Allah Ta'ala a dit, ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Or, ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Et les gens, ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Et ils savent très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir, c'est-à-dire la magie, n'aura aucune part dans l'au-delà. Et celui qui n'a aucune part, c'est celui. Car le musulman, il a sa part dans le paradis. Il rentre peut-être en enfer, mais il a sa part dans le paradis. Mais le kafir n'a aucune part dans l'au-delà. Certes, quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leurs âmes, si seulement ils savent. Donc la magie, ça fait rentrer dans le coffre, a'oudou billah. Et Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, a dit qu'il y avait deux sortes de magie. Deux sortes. Une sorte, deux sortes de sorcellerie. Une sorte qui rend la personne qui fait cette sorcellerie kafir, et une deuxième sorte qui ne rend pas la personne kafir. C'est quoi la première sorte qui rend la personne kafir? Il a dit celui qui fait la sorcellerie en s'aidant des djinns. Celui qui fait la sorcellerie en s'aidant des djinns. Il a dit celui-là, il est devenu kafir. Et le deuxième, celui qui fait la sorcellerie n'est pas kafir. Il a dit celui qui fait la sorcellerie en s'aidant de choses, pas de djinns. Il ramène par exemple la queue d'une souris et je ne sais pas quoi, peut-être la peau d'un renard. Et il mélange tout ça, etc. Et peut-être il moud. Il moud, le verbe moudre. Il moud cela et il donne à manger à une personne. Celui-là, il n'est pas devenu kafir. Le kafir, c'est celui qui fait la sorcellerie en s'aidant par les djinns. Comme ça a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah. Quant au deuxième, il a fait la sorcellerie du genre poison. Il t'a donné un poison à manger. Genre comme ça. Naam. Il a dit celui-là, il n'est pas devenu kafir, bien sûr, tant que il reconnaît que c'est haram. Mais s'il dit c'est halal de faire cela, il devient kafir, bien sûr. Il devient kafir. Vous savez, il y a une chose qu'il y a sûrement chez vous, sûrement, je suis sûr. Autrefois, moi, avant la Toba, je voyais cette chose, etc. Donc ça existait chez nous. Maintenant, je ne peux pas savoir si ça existe. Je suis loin de cela. Mais sûrement que ça existe aussi chez nous. Certaines personnes se rencontrent des fois, surtout des jeunes filles, surtout. Elles s'assoient autour d'une table, mettent au milieu de la table un verre, par exemple, autour du verre, des feuilles comme ça où c'est écrit l'alphabet, A, B, C, D, E, jusqu'à Z. Ensuite, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Chacun, va donner l'auriculaire, de sa main, le petit doigt, à celui qui est à sa droite. Et l'auriculaire gauche à celui qui est à sa gauche. Et les deux pouces. Et il doit joindre entre ces deux pouces à lui, et il donne l'auriculaire droit à celui qui est à sa droite, l'auriculaire gauche à celui qui est à sa gauche, et tout le monde fait ainsi. Tout le monde fait ainsi avec ses doigts, et il commence, ensuite le chef de cette assise va commencer à questionner le ver. Il lui dit d'abord, esprit, es-tu là? Esprit, es-tu là? Ensuite, le ver commence à bouger, et l'autre lui dit, si tu es là, va par exemple à droite. Et le ver commence à bouger tout seul, à marcher, il va vers la droite ou bien vers la gauche, d'après ce que lui a demandé le chef de l'assise. Et ensuite, il commence à lui demander des choses. Par exemple, dis-nous, est-ce que Farid va avoir son bac cette année? Et ils ont écrit oui et non. Il lui dit, si c'est bien sûr, s'il va l'avoir, va vers le oui. Et le ver commence à se déplacer tout seul. Il va vers le oui. Et il revient à sa place. Quelqu'un va dire, non, ça c'est pas possible. Je lui dis, c'est possible et ça se trouve partout. Et va chez tes voisins, tu vas trouver qu'ils sont en train de faire ça. Presque tous les soirs. Non. Donc je disais, Qui fait cela? Qui fait? Comment ça se fait le verre bouge, etc. C'est pas sorcier comme on dit. Ils appellent Coluche. Non. Alors, voir les appels Coluche, j'ai compris maintenant. Ce n'est pas Coluche, c'est un djinn. C'est un djinn spécial qui vient car tu as fait appel à lui. Et lui, il n'attend que ça. Du matin au soir, les djinns et les kofars n'attendent que, Yannick, tu travailles avec eux pour te faire entrer en enfer. Donc, Yannick, quand tu l'appelles, tu es là, il vient, il dit, Alhamdoulilah, cela, il me cherche, donc je suis là. Et il va te bouger un peu le verre et te mentir, car personne ne connaît l'avenir. Il va te dire, Naam, tu vas être heureux dans ton mariage, connaît l'avenir, sauf Allah. Taïb. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va arriver pour avoir fait cela? Tu crois qu'il va repartir, il va dire alors c'est terminé l'assise. Salam alaykoum, un de ces jours je reviens. Jamais. La plupart du temps, qu'est-ce qu'il fait? Si c'est un homme, le djinn, il se peut que ce soit un homme qui est venu, il se peut que ce soit une femme. Si c'est un homme, la plupart du temps, il choisit la plus belle qui est dans l'assise et il va la posséder pour faire le haram avec elle. Si c'est une femme, c'est le contraire. Non. Ou alors il demande, vous êtes très gentil, alors pour terminer la soirée, amenez-moi une poule noire et yani, immolez-la en mon nom. Et bien sûr, tout le monde est content, il dit, une poule ça suffit pas, moi je te ramène une vache si c'est possible. Non. Moi personnellement, j'ai assisté à une ruqya, car autrefois, avant de prendre de l'âge, j'ai fait beaucoup de ruqya, des années. Je suis tombé malade à cause de la ruqya. J'ai assisté à une ruqya où il y avait une personne, une fille bien sûr, et quand j'ai parlé avec elle, le djinn s'est prononcé. Naam. Et on a demandé qu'est-ce qui s'était passé à sa mère, etc. Elle m'a dit voilà, hier ou l'avant-hier ou la semaine passée, elles ont fait l'assise avec esprit et tu es là. C'est la première fois qu'elle a assisté, et voilà ce qui lui est arrivé. Naam. Donc, posséder, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver et préserver nos enfants. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste trois choses. La huit. Attendez, huit, neuf, dix. La chose, la huitième. Soutenir les politiques et leur apporter assistance contre les mots. Et leur apporter assistance contre les musulmans. Taïb. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran. Allah subhanahu dit dans le Coran. Ya ayyuhalladhina amanu, la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya'a, ba'dhum awliya'u ba'd. Wa man yatawallahum minkum innahu minhum. Inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Al-Ma'idah 51, c'est-à-dire en français, ô vous les croyants, ne prenez pas pour alliés les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres, pas entre eux, entre eux, les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Naam. Guide certes pas des gens injustes. Beaucoup de musulmans qui sont tombés dans le takfir, a'oudou billah, te citent ce verset. Si tout juste tu dis à un kafir, tu lui dis salam, tu lui dis salam, tu lui dis par exemple salut ou là bonjour, et tu dis ah oh, bah, ne prenez pas les alliés les juifs pour des chrétiens, oh, bah, alors vous êtes l'un des autres, et là ne guide pas les gens injustes, comme ça directement. Alors si maintenant tu lui dis j'ai invité un chrétien à la pour manger, a'oudou billah, khlas, tu es kafir. Alors que le prophète lui-même était invité par les juifs et invité aussi lui les gens, mais dans le but de faire la. Il y a une grande différence entre connaître pour essayer de le guider, de l'orienter, essayer de lui montrer, essayer de aimer l'islam et entre vouloir connaître un kafir pour l'aimer. J'aime le kafir, j'aime son lise, j'aime ceci. Il y a une grande différence. Il faut faire la différence entre les deux. faut faire les deux. Abdullah ibn Amr, radiallahu ta'ala anhu, Cheikh al-Albani a dit le hadith est authentique. Donc, ou bien c'est Abi Daoud. Je doute, mais c'est surtout Sahih Tirmidhi. Une fois avant, j'ai un mouton qui a dit à son valet. Il lui a dit, je vais aller et que notre voisin le juif soit le premier à quitter de la part du mouton. Que notre voisin le juif soit le premier auquel tu donnes de la part du mouton. Est mort. Pourquoi? Certains comme Ibn al-Qayyim ont dit empoisonné par une juive. Il a mangé chez une juive. Il a mangé chez elle et l'a empoisonné. Vous connaissez le hadith. Elle s'appelle Zainab bint al-Harith. Zainab bint al-Harith. Al-Muhim. Sans dire que le prophète, alayhi sallam, quand je vous ai raconté l'histoire de dans Sahih Muslim, le kafir qu'il a invité, qui a passé la nuit et qui lui a donné sept fois du lait. Hein? Le verbe traire. Il a trait pour lui sept fois le lait. Et ensuite, il s'est endormi le matin, il lui a donné une fois le lait, il lui a voulu lui donner la deuxième, il a dit non, je suis devenu musulman. Qu'a dit le prophète sallam? Il a dit, Naam, les sahabas sont étonnés, ils ont dit comment? Hier il a bu sept fois, aujourd'hui une fois. Il a dit, Naam, hier il était kafir. Le kafir mange et boit dans sept intestins. Et le musulman dans un seul intestin. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il a invité un kafir, il a invité, Naam. Moi aussi, j'ai un but de l'islam, pour lui montrer l'islam, pour lui et pour l'orienter, le diriger, pour lui faire aimer mon dîn, pour qu'il devienne musulman. Je l'invite, je lui donne de l'argent. Mais, c'est pas, je veux faire de lui un ami pour aller avec lui danser, et aller au cinéma et me présenter des femmes. Non. Si dans ce cas, ça devient très grave pour moi, dans la Aqida. Al-Muhim. Certains, et beaucoup aussi de Tekfiriyun, Naam, n'ont pas compris aussi ce verset, que veut dire vraiment ce verset, et comme ils n'ont pas de science, ils n'étudient jamais, donc pour eux, comme j'ai dit tout à l'heure, si tu dis salut à un kafir, tu es devenu kafir. Naam. Ceux-là ne font pas aussi la différence entre, yani, d'ailleurs, c'est écrit, ici. Sinon, c'est pas écrit ici. Non. Ne font pas la différence, par exemple, lorsque Saddam Hussein, il est mort, rahimahullah, lorsqu'il a quoi? Il a, je sais pas si on dit conquis. C'est pas le verbe conquérir. Il est rentré au Koweït, vous savez, il est rentré de force. Un verbe, dites-le-moi. Il est rentré au Koweït de force. On lui a dit, le Koweït, c'est ton pays, etc. On te l'a pris autrefois. Donc, il a décidé d'envahir. Voilà. Il a envahi le Koweït. Quand il a envahi le Koweït, l'Arabie Saoudite, qui est très proche du Koweït, a su aussi qu'il allait aussi envahir l'Arabie Saoudite. Al-Muhim. Le roi du Koweït, ou bien l'émir du Koweït, a vite fait, quoi, a demandé de l'aide à l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite a demandé de l'aide aux États-Unis. Ça. Et, naam, voilà. Ils sont rentrés et ils ont obligé Saddam Hussein à sortir de quoi? À sortir d'abord de, du Koweït. Ensuite, bien sûr, ils sont rentrés chez lui, là-bas, en Irak. Al-Muhim. Certains croient, surtout les tekfirions et le juhal, ils croient que si tu fais appel à un kafir pour t'aider, il te dit khlas, tu es devenu des leurs. Tu es devenu kafir. Pourquoi? Tu es de l'aide à un kafir. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit, écoutez-vous les juhal, les ignorants, les ignares, les égarés. Pourquoi vous ne voulez pas apprendre la religion? Pourquoi vous parlez sans science? Pourquoi? Est-ce que vous avez vu quelqu'un dans votre vie, un tekfiri, assis comme ça en train d'apprendre la religion? Regardez seulement si vous rentrez dans le salon de l'égaré Bessam Ayashi. Vous allez trouver que ce sont quoi? Ce sont des histoires qu'il raconte. Des histoires. Je ne vous conseille pas de rentrer. Mais moi, il fallait que je rentre pour savoir ce qu'il dit, bien sûr. Je suis rentré, comme on dit, chez vous, en sous-marin, pour savoir ce qui se passe. Et moi, les gens ne peuvent yani, prendre un livre. C'est dire un livre et de le lire, lire un livre de Cheikh Ben Othaymine. Non, ils peuvent pas. Il plaisent. Ils racontent des blagues, ils racontent n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit, si d'après vous, yani, le kafir, un kafir, si on lui demande de... Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quel est son statut? Parce qu'est-ce qu'il a fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Premièrement, quand il a fait la hijra, il a voulu faire la hijra pour se sauver, pour les kuffars et aller vivre en pleine sérénité à Médine. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé de l'aide à un kafir qui s'appelle Abdullah ibn Urayy. Un kafir, on appelle ça un dalil. Dalil, c'est celui qui connaît les chemins. Pour aller de la Mecque à Médine, c'est difficile. Le prophète, peut-être qu'il n'est jamais allé à Médine, peut-être. Donc, comment aller entre les montagnes, etc. Et un guide, voilà. C'est qui son guide? C'est qui? C'est un musulman ou un kafir? C'est un kafir. C'est un kafir. Il a demandé de l'aide à ce kafir qui l'a aidé dans une chose très importante qui s'appelle quoi? Qui s'appelle la hijra. Donc, on dit au takfirion. Donc, le prophète, peut-être qu'il est devenu kafir d'après vous. Il a demandé de l'aide à un kafir. Naam. Et à résoudre Badr et Uhud deux fois dans ces batailles, alayhi sallam, il a demandé de l'aide à un kafir. Il lui a prêté son le même kafir. J'ai oublié son nom. Oumeya, quelque chose comme ça. Il lui a demandé deux fois de l'aide. Il lui a prêté deux fois son bouclier. Il a demandé à qui? À un kafir, deux fois, dans deux batailles. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça se trouve, ce que je dis, vous trouvez dans Fath al-Bari, Sahih al-Bukhari. Il a envoyé des kuffars, des gens chrétiens, Ahl al-Kitab, des chrétiens, il les a envoyés pour lui ramener des renseignements, d'informations de l'ennemi. Il ne peut pas envoyer un musulman, il a envoyé des kuffars pour le ramener, lui ramener des informations sur les kuffars, quels sont leurs nombres, etc. Il a envoyé qui? Il a envoyé des chrétiens, gens du livre. Subhanallah. Donc le prophète, peut-être qu'il est devenu kafir. Il a demandé de l'aide aux kuffars. Donc ce qu'il faut apprendre quoi? Ce qu'il faut apprendre que la règle c'est que j'essaie de ne pas demander de l'aide aux kuffars. Comme a dit le prophète, il a dit, La esta'inu bi mushrik. Je ne demande pas de l'aide aux kuffars. Mais maintenant, si quelqu'un est dans le besoin, c'est permis. À condition quoi? À condition que je demande de l'aide du kuffar, pas contre les musulmans. Qu'est-ce que ça veut dire pas contre les musulmans? Vous allez dire que l'émir du Koweït, il est, où est-ce mon... La raison de demander de USA contre les musulmans, contre Saddam Hussein et sa clique. Je vous dis, c'est pas ça le sens. Le sens, je ne demande pas de l'aide du kafir contre le musulman à cause de son, à cause de l'islam, à cause du dîn. Moi, musulman ici, moi, je vais demander de l'aide au kuffar pour combattre les musulmans. Ça, je deviens kafir. Mais maintenant, s'il y a des musulmans qui sont injustes, qui sont des voyous, qui sont des zalim, naam. M'entendez, sorry, je reviens, n'entendez pas. Énormément, alors chose grave. Maintenant, si c'est musulman, naam, c'est en Algérie, les pannes, c'est en Algérie, ça. Si maintenant Saddam Hussein, c'est un musulman. Mais quand il est rentré au Koweït, qu'est-ce qu'il a fait? Moi, j'étais au Koweït et j'ai parlé avec des gens là-bas. Ils m'ont dit, ils ont saccagé, ils ont pillé, ils ont brûlé des femmes, des musulmans, ils ont été violés par les soldats de Saddam Hussein. Donc maintenant, si je laisse celui-là, il va m'exterminer. Donc moi, je demande de l'aide, même si c'est un kofar. Ça ne fait rien. Pour pas demander à l'aide au kofar, tuer Saddam Hussein à cause de son dîn, et à cause de son islam. Qu'il propage l'islam. Non. Moi, je me tue pas. Pas ceci et cela. Non. Mohamed El-Jazeri, la panne, c'est en Algérie, c'est pas en France. En France, on bien, Allah. Confirmez-moi que vous m'entendez bien. Bien, qu'en France. Alhamdoulillah. Donc, je dis, je termine en disant cela. Je ne dois pas demander au kafir, Allah ibarak, 200 mégas. Je ne dois pas demander au kafir de l'aide, sauf dans quoi? Dans la contrainte. Et si je demande dans la contrainte, il ne faut pas que je demande de l'aide contre le musulman, c'est-à-dire contre l'islam. Non, je demande de l'aide pour quelque chose de la dunya. Pour quelque chose de la dunya, comme ici, si quelqu'un veut envahir mon pays et me prendre mes épouses et mes filles, celui-là, là, je le laisse pas. Je le laisse pas, même si je fais, je demande l'assistance à un kafir. C'est pour ça que les savants disent, il faut lire, il faut apprendre la religion. Apprenez, lisez, lisez les livres. Les savants disent, disent, si un kafir, tu sais que le kofar veulent par exemple envahir ton pays, après, tu n'as pas les moyens. C'est comme si, je prends un exemple très simple, c'est comme si de nos jours, la coalition qu'il y a entre les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Australie, comment ça s'appelle ça, le NATO, le NATO, quelque chose comme ça, non, quand ils décident, ils disent, allez, ils se regroupent vite, des plus puissants, et ils ont les armes nucléaires et tout ce qu'ils veulent, et maintenant ils décident, ils disent par exemple, on va attaquer par exemple l'Algérie. Par exemple, l'Algérie ou là, je ne sais pas quoi, le Mali ou là. Que peut faire l'Algérie en face de cela? Donc, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, va essayer pas et je vous donne tant d'argent. Et je vous donne 2% du pétrole. Et je vous donne ça. Non, mais les savants disent, c'est permis. Pourquoi? Il vaut mieux que tu leur donnes quelque chose là, dounia, plutôt qu'ils rentrent et te prennent le din. Ceux-là, s'ils rentrent dans ton pays, c'est terminé le din. C'est terminé ton dîn. C'est les églises qui vont être plantées à la place des mosquées. C'est Taboroj, il n'y a plus Djilbab, il y a les lois des kofars, vous les connaissez. Vous avez compris? Ça ne rentre pas dans le verset qu'on a cité tout à l'heure, tu es devenu mécréant. Non. Moi, je t'ai pas donné de l'argent, là, j'ai fait quelque chose avec toi contre l'islam. Au contraire, moi, je veux protéger l'islam. Naam. Que Allah Azzawajal nous apprenne notre religion. Puisse Allah Azzawajal nous apprendre notre religion. Naam. Qu'est-ce qu'il reste encore? Voilà, il reste deux choses, on va terminer la neuvième, Inch'Allah Ta'ala, la neuvième et la dixième. La neuvième et la dixième. La neuvième, non. Celui qu'il est permis à certaines personnes de ces législations, c'est-à-dire la charia de Mohammed Aslam, examen a fait le khidr, vous connaissez le khidr, vis-à-vis de Moussa alayhi salam. Et il s'appelle le Khadr. Apprenez cette chose. Son vrai nom, c'est le Khidr. Pourquoi? Beaucoup de gens disent. Alors que c'est seulement. Ou bien le Khadr. Croire qu'il est possible à certaines personnes de s'écarter de la charia du prophète Aslam. Comment a fait exactement le Khidr vis-à-vis de Moussa? J'avais dit que le Khidr, son histoire est connue dans Sourate Al-Kahf. Vous connaissez tous son histoire. J'avais dit que le Khidr, son vrai nom c'est le Khidr ou bien le Khadr, comme ça. Et on ne dit pas le Khodair. Beaucoup de gens disent le Khodair en parlant de lui. Alors qu'il s'appelle seulement ou bien le Khidr ou bien le Khadr. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, vous savez que le Khidr. Yani, c'est un quoi? C'est un prophète. Non, c'est un prophète, c'est pas un wali. Parce qu'il a fait des choses dans Sourate Al-Kahf qu'une personne ne peut pas faire. Entre autres, il a troué la barque. Ensuite, il a tué un enfant. Ensuite, il a comment qu'on dit? Il a bâti un mur qui allait s'écrouler. Ensuite, il a dit à Moussa alayhi salam, il lui a dit tout ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait de moi-même. Les savants dit donc, il a fait d'Allah Azzawajal, donc lui, c'était un messager. Donc, certains vont dire que je fais des choses qui sont apparemment interdites, mais mais yani, elles sont acceptées chez Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous m'entendez? Je vois pas le micro devant moi. Est-ce que vous m'entendez? Je me vois sans micro. Subhanallah al-Azim. Naam. Donc, je voulais dire que certains, surtout les soufis, surtout les gourous, les grands chefs des Ousmans, des soufis, qu'est-ce qu'ils font? Moi, il y a des gens qui m'ont raconté. Par exemple, il boit par exemple du vin. Et il dit quoi? Si tu dis par exemple à quelqu'un, tu lui dis, regarde, il boit le vin, et celui-là, il dit que c'est un élu d'Allah Azzawajal. Il te dit, hey, tu te trompes, mon fils, tu te trompes. Toi, tu vois du vin. Mais en chose. Comme ça, ils disent. Non. Tu dis, yani, devant tes yeux, pour tes yeux, c'est du vin. Mais, chez Allah subhanahu wa ta'ala, ça a un autre jugement. C'est comme ça qu'ils disent. Et il se base sur ce qu'a fait le Khadir. Le Khidr. Et le Khadir, il te dit, regarde, il a tué un enfant, et pourtant Allah Ta'ala a dit qu'il l'a tué parce qu'il savait qu'il allait devenir kafir, et que Allah Ta'ala a voulu le remplacer en mieux. Le remplacer en mieux. Donc si tu vois quelqu'un tuer quelqu'un, il ne faut pas t'étonner, peut-être que pour Allah Ta'ala, c'est quelque chose de bien qu'il vient de faire. Donc si moi tu me vois en train de boire du vin ou faire la zina, il ne faut pas t'étonner. Peut-être c'est Allah Ta'ala, yani, pour lui, je suis en train de faire des choses bien. Vous avez compris? Si quelqu'un pense comme ça veut dire qu'il est devenu kafir. Ça veut dire qu'il est devenu kafir. Car il peut ne pas appliquer la charia et te dire que voilà, j'ai fait comme a fait le Khidr avec Moussa alayhi salam. Naam. Et certains, qu'est-ce qu'ils font aussi? Certains, ils délaissent l'adoration. Et si tu leur dis pourquoi tu délaisses l'adoration, tu pries plus, etc., ils te disent maintenant j'ai la certitude. Ça, c'est parce que j'ai la certitude. Et d'ailleurs, il va te citer un verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala a dit Wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Al-Hijr 99. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Voyez ce que Allah ta'ala a dit. Il t'a dit de jusqu'à ce que te vienne la certitude. Si maintenant te vient la certitude, ça veut dire il faut, tu peux t'arrêter d'adorer. Comme ça, ici, ce verset. Alors que la certitude ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la mort. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la mort. Car quand vient la mort, c'est ça la vraie certitude. Tu verras les anges et tu as dans la tombe et on t'ouvrira une porte, etc. etc. Nam, ça c'est neuvièmement. Enfin, dixièmement, bon, j'ajoute une chose, le Cheikh a dit, je rajouterai le Cheikh a dit, comme les extrémistes parmi les soufis, qui croient qu'ils peuvent arriver à un degré qui leur permet de se passer, de se conformer au messager d'Allah. C'est ce que je viens de dire maintenant. Et enfin, dixième annulatif, se détourner de la religion d'Allah Azzawajal, ne pas la prendre ni la pratiquer. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Ils ne sont pas intéressés par la religion du tout. Naam. Et même qu'il peut te dire, je n'ai pas de temps. Pourquoi tu viens pas un peu pour apprendre, pour pratiquer, pour... J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. La religion, c'est le dernier de mes soucis, comme a dit quelqu'un. J'ai entendu, il m'a dit. On a dit, la religion, c'est le dernier de mes soucis. Le Mouhim. Son délit, c'est quoi? Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran. Al-Ahqaf 3. Ceux qui ont mécru se détournent de ceux dont ils ont été avertis. Ils se détournent de ceux dont ils ont été avertis. Il y a aussi un autre verset qu'on peut citer là. C'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il a dit, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ Sijda 22. Qui est plus injuste que celui qui, à qui, les versets d'Allah sont rappelés et qui ensuite s'en détournent. Il a dit, nous nous vengerons certes des criminels. Ça veut dire, celui qui fait comme ça, c'est un criminel. Celui qui fait comme ça, c'est un criminel. C'est pour ça qu'il a dit, nous nous vengerons certes des criminels. D'ailleurs, Cheikh Mohamed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, a dit, il n'y a aucune différence par rapport à tous ces actes annulatifs entre celui qui agit par plaisir ou bien en étant sérieux ou bien par simple crainte, à l'exception de celui qui est contraint, un mukra. Elles sont toutes, c'est-à-dire ces actes d'adoration, elles sont toutes aussi dangereuses et répandues les unes que les autres. Il convient donc aux musulmans de garde et de les appréhender. Nous devons de nous préserver de ce qui suscite sa colère et la sévérité de son châtiment. Voilà, inchallah ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui qui, je vois, a duré 2 heures et 1 quart d'heure. 2 heures et 1 quart d'heure. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Je suis prêt inchallah ta'ala pour les questions réponses. Dès que vous êtes prêt, dites-le moi inchallah ta'ala. Je suis idhnillah ta'ala.
Bismillah wa salat wa salam ala rasulillah. Je vais essayer de bien ouvrir les yeux pour lire les questions inchallah. La première question, la question d'une sœur. Cher, vous m'entendez inchallah? Donc la question de la sœur est, Allah, quel est le jugement d'une sœur qui a été divorcée pour la 3e fois par son mari, mais malgré cela, elle refuse de partir de chez lui, car pour l'État français, elle est encore mariée, donc elle est chez elle. Rentre-t-elle dans l'un des 10 annulatifs de l'islam, du fait de prendre pour allier les koufars? Barakallahu fikoum wa jazakumullahu khair, cher.
Alaykoum salam, rahmatullah. Est-ce que tu m'entends? Abou Zakari, est-ce que tu m'entends? Alhamdoulilah. Donc, quand tu as commencé à la question, tu l'as commencé par le divorce. Donc, je ne savais pas qu'à la fin, ça avait rapport avec le cours. Donc, je me suis énervé. Comme je suis énervé, donc j'ai pas entendu la question. Donc, Aoud Barakallahu Fik. C'est seulement à la fin que j'ai compris que ça avait rapport avec le cours. Tfadlal.
Naam, cher, j'ai eu la même réaction que vous en lisant juste divorce. J'allais répondre après, j'allais dire à la sœur c'est hors sujet, et après, alhamdoulilah, j'ai vu que c'était dans le cours. Donc la question est, quel est le jugement d'une sœur qui a été divorcée pour la 3e fois par son mari, mais malgré cela, elle refuse de partir de chez lui, car pour l'État français, elle est encore mariée, donc elle est chez elle. Rentre-t-elle dans l'un des 10 annulatifs de l'islam, du fait de prendre pour allier les koufars? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair, achir.
Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh. Si elle reste chez lui en attestant dans son cœur que, yani, malgré qu'elle soit divorcée 3 fois et qu'en islam elle n'est plus son épouse, mais elle est son épouse maintenant à cause des lois françaises. Si elle pense comme ça, elle a quitté l'islam et elle devrait faire la shahada pour rentrer de nouveau dans l'islam. Si elle pense comme ça, je répète, si elle sait que en islam, après être divorcée 3 fois, elle n'est plus son épouse, elle sait cela, que c'est comme ça en islam, mais elle dit, puisqu'il y a une loi française qui dit que, yani, je suis toujours son épouse, donc je me base sur la loi française. Dans ce cas, c'est un annulatif de l'islam. Mais si par contre, elle sait qu'elle n'est plus son épouse, mais elle dit je reste à cause de l'appartement ou à cause de qui me donne mes droits ou à cause d'une autre chose, mais elle reconnaît dans son cœur qu'elle n'est plus son épouse. Dans ce cas, yani, ce n'est pas un annulatif bi'idhnillahi ta'ala. Tfadlal. Wallahu azza wa jal wa a'lam.
Barakallahu fikoum, cher. Question suivante d'une sœur qui demande, cher, pour entrer en islam, on doit attester dans son cœur. Attester dans son cœur n'est pas suffisant. Il faut absolument le prononcer. Pour sortir de l'islam, en est-il de même, mais dans le sens inverse? C'est-à-dire si une personne, dans son cœur, s'imagine faire ou dire des choses qui annulent l'islam, tout en y prenant plaisir, mais sans les commettre. Cette personne est-elle toujours dans l'islam? Est-elle toujours dans l'islam, cher? Barakallahu fikoum.
Si c'est possible de répéter les exemples qu'elle a donnés. Les exemples qu'elle a donnés.
Madame chère, la sœur dit, c'est-à-dire si une personne, dans son cœur, s'imagine faire ou dire des choses qui annulent l'islam, tout en y prenant plaisir, mais sans les commettre. Est-ce que cette personne est-elle toujours dans l'islam? Barakallahu fikoum, cher.
C'est un peu compliqué, yani, ce qu'elle a dit. Pourquoi? Parce que ce qu'il y a dans le cœur, on a dit tout à l'heure, ce sont des pensées qui viennent et dont on veut se débarrasser. Il y a quelque chose qui me dit dans la tête que Allah Ta'ala n'existe pas, ou là qu'ils sont deux, ou là qu'il n'y a pas d'enfer, ou là je dis Oudoublam, je pousse comme ça. Dans ce cas, non, je ne suis pas un kafir. Je suis toujours musulman. Mais si maintenant, moi, dans mon cœur, yani, m'insulte qu'il n'y a plus d'enfer. C'est-à-dire, j'ai réfléchi, j'ai dit non, ça, il n'y a plus d'enfer. Il n'y a pas d'enfer, c'est pas vrai. Il n'y a pas de paradis, c'est pas vrai. Et comme ça veut dire, je suis devenu kafir. Là, je suis devenu kafir. Naam, quand elle a dit, tout y en prenant plaisir, ça dépend de quoi? Si ce sont des péchés seulement, par exemple. Je pense, par exemple, à une femme et j'imagine des choses et j'ai plaisir à cela. Non, ça, je suis toujours musulman. Je suis toujours musulman. J'aurai des péchés pour avoir quoi? Pour yani, avoir, au lieu de chasser cette chose, pour avoir pris plaisir à l'imaginer et à s'imaginer en train de faire des choses de haram. Non, mais je suis pas devenu kafir. Mais maintenant, si je suis en train d'imaginer des choses qui font tomber dans le coffre, j'imagine Allah Ta'ala dans une chose qui n'est pas bien et ça me plaît, etc. Là, je deviens kafir. Mais si c'est seulement des péchés, des grands péchés, la zina, j'imagine, ou bien l'alcool, ou bien je prends plaisir, c'est seulement un péché. Ce n'est pas kafir tant que je dis pas c'est halal. Tant que je dis pas c'est halal de faire cette chose. Ce n'est pas haram. Si je dis comme ça dans mon cœur, je deviens kafir. Tfadl.
Barakallahu fikoum, cher. Une question suivante d'un frère qui dit: Ahsanallah ilaykoum, cher. J'ai une question concernant un verset que vous avez cité pendant le DAS. Il s'agit du verset 40 de la sourate Al-A'raf, qui donne l'image que ceux qui mentent sur les versets d'Allah n'entreront au paradis que quand le chameau pénétrera dans le chat de l'aiguille, chose qui est impossible. Le terme utilisé dans le verset est Jamal. Traduit par chameau. Un frère m'a dit qu'il était impossible, il était possible que la traduction soit erronée, car Allahu a'lam, d'après lui, le mot en arabe est également utilisé pour désigner la grosse corde que l'on utilise pour attacher un bateau lorsqu'il est à l'arrêt. Et donc on comprend par là la comparaison du petit fil qui passe facilement dans le chat de l'aiguille en opposition à la grosse corde qui ne pourra jamais passer dans le chat de l'aiguille. Et donc que les mécréants ne rentreront jamais au paradis. Ma question, cheikh, est donc, avez-vous déjà entendu un tel tafsir de ce verset avec cette traduction? D'ailleurs, est-il vrai que le mot jamal a ce double sens en arabe, barakallahu fikoum, cheikh? Et j'avais une petite remarque, inshallah, celle-ci après, inshallah. Tafadhal, cheikh.
Je n'ai pas très bien compris, Naam, yani ce qu'il a voulu dire. Je n'ai pas très bien compris, mais j'ai compris grosso modo que yani Jamel pouvait avoir peut-être deux sens ou plus, et que c'était pas spécialement yani, que Allah Ta'ala ne parlait pas peut-être de l'aiguille, mais parlait d'une corde ou quelque chose comme ça. Naam. Je ne sais pas si le mot Jamel a plus d'un sens. Mais ce qui est connu, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, naam, quand il parle dans le Coran aux gens, il parle aux Arabes. Il parle aux Arabes. Naam. Et les Arabes chez eux, le mot Jamal, quand il dit Jamal, naam, c'est le plus connu. Si Jamal a deux sens, ici, l'animal, c'est lui le plus connu, bi'idhnillahi ta'ala. C'est pour cela que si vous allez voir les tafsirs des salafs, la plupart vont y aller donner la, comment dire, tarjih à l'animal et pas au deuxième sens, et pas au deuxième sens, même si ce deuxième sens, je crois qu'il existe, mais je me rappelle plus c'est quoi. Wallahu azza wa jal a'lam. Tfadhal.
La remarque, cher, c'était, vous avez dit que parmi les pensées du cœur qui risquent de nous faire sortir de l'islam, il y a par exemple le fait de dire Allah n'est pas juste ou Allah n'est pas sur le trône. Mais Allahu a'lam, le plus correct serait de dire dessus au lieu de sur. D'ailleurs, c'est vous qui nous l'avez enseigné. Jazakumullahu khaira. Donc, c'est sûrement une petite inattention. Wallahu a'lam. Wa hayakum Allah, cher.
Wahiyakum, naam, au-dessus du trône. Naam, c'est ce que je voulais dire, au-dessus du trône. Barakallahu fik, tfadhal.
Barakallahu fikoum, cher. Donc, question suivante d'une sœur qui dit: Allah vous comble de ses bienfaits. Pouvez-vous réexpliquer le point sur le fait de pouvoir demander de l'aide aux kuffars contre un musulman? Contre un musulman qui veut du mal aux musulmans comme Saddam Hussein, car j'ai pas très bien compris. Jazakumullah khairan, cher.
Pour que tu comprennes, je te donne un exemple très simple. Tu es en France. Il y a un musulman, un voyou. Un musulman, un voyou, là, qui veut t'attaquer, tu es une sœur. Et tu fais appel à un policier kafir. Tu lui dis, je sais pas comment on dit chez vous, monsieur le policier, ici tu as fait appel à un kafir, qui est le policier. Contre un musulman, qui est le voyou qui voulait t'agresser. Et tu es toujours musulman, tu n'es pas kafir. Pourquoi? Car tu n'as pas fait appel contre ce musulman à cause de l'islam. Tu n'as pas dit aux policiers, venez m'aider, yani contre ce musulman, à cause de l'islam. Je veux dire à cause de son islam. Car il veut propager l'islam, il veut construire la mosquée, il veut ceci. Non, dans ce cas, tu deviens kafir. Mais ici, tu as fait appel contre son zulm, son agression, qu'il soit musulman ou pas. J'espère que, inshallah ta'ala, c'est clair. Si c'est pas clair, qu'elle me dise, j'explique davantage, inshallah ta'ala. Tfadlam.
Barakallahu fikoum, cher. En attendant de savoir, question d'une sœur qui demande, Jazakumullahu khairan, cher. Entre sœurs, il nous arrive de nous faire des blagues sur notre habillement. Ceci sans mauvaise intention et sans détester notre habillement, vu qu'on est toutes pareilles. Est-ce que cela rentre aussi dans ce que vous nous avez dit? Par exemple, elle se dit fantôme, etc., en parlant du djilbab. Barakallahu fikoum, cher.
Il vaut mieux ne pas dire ces choses. Sauf si on est en train de raconter ce que disent les ennemis sur nous. Tu dis par exemple, ils m'ont vu, ils m'ont fantôme. Ou bien, yani, nous sommes des fantômes. Nous sommes des fantômes, c'est-à-dire pour eux. Naam. Et comme ça. Mais si c'est seulement entre vous et yani, dire fantôme et comme ça entre vous, naam, ce n'est pas bien, il faut éviter. Faut éviter des choses pareilles, car ce sont des choses légiférées par Allah subhanahu wa ta'ala, des choses que Allah subhanahu wa ta'ala aime, des choses que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas qu'elles soient critiquées, et encore moins détestées, bien sûr. Je sais que vous ne détestez pas ces choses, mais dans le dîn, il faut pas yani, jouer, plaisanter et rire sur des choses du dîn, bi'idhnillahi ta'ala. Je vous conseille de vous en écarter. بإذن الله تعالى.
La sœur dit qu'elle a bien compris pour la question sur l'aide des koufars. Donc, question suivante d'un frère qui dit, c'est par rapport à l'annulatif de l'islam. Celui qui n'aime pas quelque chose de prescrit, même s'il le pratique, est-ce que par exemple celui qui effectue la salat, car Allah l'a ordonné et l'accepte, tout en détestant cela, ou fait le djihad pour Allah, car Allah l'a prescrit, malgré qu'il n'aime pas? Est-ce qu'il apostasie de l'islam, cher? Barakallahu fikoum.
Il faut faire la différence entre ne pas l'aimer car ça ne me convient pas et ne pas l'aimer car ça vient d'Allah Azzawajal, c'est la charia. Allah Ta'ala a bien dit dans le djihad que il a été prescrit contre vous le djihad et alors que yani, alors que yani, vous le détestez ou quelque chose comme ça. Je déteste le djihad dans le sens, c'est-à-dire que j'aime pas mourir. J'aime pas laisser mes enfants y partir. J'aime pas quitter mon pays. Peut-être j'ai peur de l'ennemi. Peut-être. Il y a une différence entre cela et détester que ça vienne d'Allah. Et dire pourquoi Allah Ta'ala a légiféré ce djihad. Non, il n'avait pas le droit de le légiférer. C'est pas quelque chose de bien. Vous avez compris? Là, non. C'est juste, c'est moi qui parle, je dis, yani j'ai peur de l'ennemi ou je veux pas y aller ou quelque chose comme ça. Mais je voudrais que les gens fassent le djihad et qu'ils aient la victoire sur les kofars. Mais si maintenant je déteste le djihad parce qu'il a été légiféré par Allah Azzawajal, dans ce cas je deviens kafir. Donc il y a une différence entre les deux, Inch'Allah ta'ala. Tfadlal.
Barakallahu fikoum, cher. Question suivante d'une sœur qui dit: il m'est arrivé d'éprouver quelques gênes, je ne dirais pas aversion, à lire certains versets du Coran, de sourate Al-Baqarah. J'ai évité même de les lire, car je les trouvais difficiles à comprendre. Et alhamdoulillah, je me suis efforcé à lire sourate Al-Baqarah tous les jours, dans le but de la ruqya. Alhamdoulillah, je n'éprouve plus cette gêne que j'avais. Et au contraire, je me languis de la prochaine fois que je vais la lire. Qu'est-ce que c'est cette gêne que j'ai éprouvée? Je ne pense pas que ce soit de l'aversion. Si c'est de l'aversion, dois-je refaire ma shahada? Éclairez-moi, cher, s'il vous plaît. Barakallahu fikoum.
Non, la personne a bien dit que elle éprouvait de la gêne. Elle a dit la cause, l'aïd, là. Elle a dit car elle ne comprenait pas ses versets. Elle les trouvait compliqués à comprendre. Donc, elle ne voulait pas lire, disons, cette sourate. Parce que les versets sont très longs et incompréhensibles pour elle. Donc, ça n'a rien à voir avec yani, l'aversion et avec détester. D'ailleurs, elle ne sait même pas ce que ces versets comportent comme jugement. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'elle avait de la haine. Naam. Donc, Inch'Allah ta'ala, c'est juste que elle voulait pas lire ces versets parce qu'ils sont incompréhensibles pour elle. Les débutantes, elle n'a pas l'arabe et comme ça. Ça n'a rien à voir, Inch'Allah ta'ala, avec l'apostasie. Tfadlal.
Alhamdoulilah, barakallahu fikoum, cher. Question suivante d'une sœur qui dit: cher, concernant ces annulatifs, comment doit-on réagir face à certains proches qui soit se moquent, disent que salat n'est pas obligatoire? Comment doit-on les traiter, min fadlikoum? Jazakumullahu khayra, cher.
Là où ça m'a un mot qui a sauté dans la question.
Naam, cher, donc la question de la sœur: comment doit-on réagir face à certains proches qui soit se moquent ou disent que salat n'est pas obligatoire? Donc comment doit-on les traiter, min fadlikum, jazakumullahu khaira?
Donc la question c'était, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? La question c'était par rapport à mes amis, que certains années se moquaient, on disait que la salat n'est pas obligatoire. Maintenant, cela dépend des gens. Là, ceux qui se moquent et disent que la salat n'est pas obligatoire, si ce sont des convertis, nouveaux convertis, tout frais, qui ne savent pas encore que la salat est obligatoire, là, mais vivent dans des pays de Kofar, etc., ils sont excusés jusqu'à ce qu'ils apprennent. Qu'ils apprennent que la salat est obligatoire. Mais ce sont des musulmans à la base, yani de souche. Ceux-là, a'oudou billah, en faisant ainsi, ou en disant ainsi, a'oudou billah, yani, ils quittent l'islam. En disant que la salat n'est pas obligatoire, yani, ils quittent l'islam. Juste nous, qu'est-ce qu'on fait? Yani, on leur montre au moins une fois. On dit, yani, taqillah, mais yani, la salat, ça rentre dans ce qu'on appelle en arabe le ma'loum min ad-daroura, le ma'loum min ad-din. Bil-Ithira, ma'loum min ad-din bil-darura. Comme ça disent les savants. Ils disent la salat, par exemple, c'est l'une des choses qu'on doit savoir par contrainte. C'est-à-dire, aucune personne, aucun musulman dans le monde ne peut ignorer que la salat est obligatoire. S'il ignore, naam, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas un musulman. C'est un kafir, il est nouveau, donc il vient juste d'entrer dans l'islam, on lui apprend qu'elle est obligatoire. Car la salat, dès qu'on rentre en islam, c'est le premier pilier. Comment la personne ne sait pas que la salat est obligatoire? Donc, il faut voir comment faire la da'wah avec patience et hikma. Mais comment patienter et essayer de propager, inshallah, peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala leur ouvre le cœur. Sinon, celui qui dit comme ça, vraiment, Allah yahdi, vraiment, il est loin. Naam. Tfadlal.
Barakallahu fikoum, cher. Question suivante d'un frère qui dit: cher, ahsanallah ilaykoum, comment le musulman doit-il considérer le hasard dans sa croyance? Barakallahu fikoum, cher.
Afoun, le mot-clé de la question, je ne l'ai pas entendu. J'ai entendu seulement comment le musulman dans sa croyance. J'ai pas entendu le verbe au milieu. Tfadlal.
Alors, cher, le frère demande comment doit-il considérer le hasard par rapport à sa croyance. Barakallahu fikoum, cher.
Quand la personne parle et dit, par exemple, hier je marchais dans la rue, j'ai rencontré, par exemple, Omar, je l'ai rencontré par hasard. Ou bien je marchais par là, j'ai trouvé quelque chose par hasard. On va voir qu'est-ce qu'il veut dire par hasard. S'il veut dire par hasard par rapport à moi-même, c'est-à-dire je ne savais pas. Ensuite, subitement, j'ai rencontré la personne. C'est permis. Mais si veut dire par hasard, c'est-à-dire que par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, ça devient du kofr. Ça devient du kofr. Donc si la personne dit par hasard et elle veut dire par hasard par rapport à moi, Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah a dit c'est permis. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en parlant de Yom al-Jumu'ah, il a dit qu'il y avait un moment dans la salat, enfin dans la journée, que si le musulman yani, tombe dans ce moment, que Allah subhanahu wa ta'ala yani, lui exaucerait les doigts. Et dans le hadith authentique de Tamim Dari dans le Bukhari, que lorsqu'il marque, ensuite ils ont dit que par hasard yani, il y avait quoi? Il y avait de grandes vagues, etc. Non. Et il a cité le mot hasard. Ensuite, il y a deux ou trois autres dalils aussi authentiques que je n'ai pas maintenant dans ma tête qui prouvent que quoi? Que c'est permis d'employer le mot hasard à condition que qu'on veuille dire par rapport à nous. Par rapport à nous. Et dans le Coran, Allah Ta'ala a dit Wa innahu la du hazzin azim. Wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa du hazzin azim. Naam. Tfadhal.
Barakallahu fikoum, cher. Question d'une sœur. Concernant le fait de mentir pour faire rire, doit-on comprendre qu'il ne faut pas regarder des sketchs humoristiques, car souvent ce sont des histoires inventées?
En fait, nous, yani, on connaît le hadith qui dit qu'il ne faut pas mentir pour faire rire les gens. Et malgré cela, nous, on va voir des sketchs qui, quoi, eux, yani, ils mentent pour faire rire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, ils rapportent une chose qui est véridique. C'est-à-dire qu'ils sont en train de traiter un sujet qui est véridique. Il est véridique que dans telle personne, il se passe comme ça, il se passe comme ça dans telle société. Mais ça rentre toujours dans le temthil. C'est-à-dire le fait de. Comment on dit temthil en français? Disons le fait de. Dans le théâtre, que ce soit dans le cinéma, que ce soit. Pas comment ça s'appelle ça en français. Les savants ont dit. La représentation. Les savants ont dit ça. C'est haram bi-idhnillahi ta'ala. Naam. Si dans les sketchs, il y en a. Si la personne peut les éviter, c'est mieux. Sinon, il y en a. Je pense que beaucoup les voient. Wallahu a'lam. Tfadhal.
Barakallahu fikoum, cher. Question suivante d'un frère qui dit Salam alaykoum, cher. Qu'Allah vous préserve. Question sur les impôts, inshallah. Peut-on tricher, déclarer juste le minimum, au moment de déclarer les impôts en France, dans le but d'en payer le moins possible? Les impôts de l'entreprise, par exemple. Nous sommes redevables seulement de la zakat, donc si on paye autre que les impôts, que la zakat, est-ce que nous obéissons aux lois des hommes au lieu de celles d'Allah? Barakallahu fikoum, cheikh.
Il y avait des coupures dans la question.
Afouane cheikh, je vais reprendre en espérant que ça ne coupe pas. Question sur les impôts, donc. Peut-on déclarer juste le minimum au moment de déclarer les impôts en France dans le but d'en payer le moins possible? Nous sommes redevables seulement de la zakat. Donc, si on paye d'autres impôts que la zakat, est-ce que nous obéissons aux lois au détriment de celles d'Allah? Barakallahu fikoum, cher.
Avant cela, tout à l'heure, quand je parlais du fait de dire par hasard. C'est exactement comme a dit le frère, ça veut dire, il veut dire par là, par coïncidence. Et j'avais dit qu'il y avait d'autres délits que j'avais oubliés. Maintenant, je me rappelle un troisième délit. Je me rappelle un troisième délit. Le professeur, lorsqu'il a parlé de Jorayj, sa mère, lorsqu'elle est venue lui pour lui parler alors qu'il était dans la salat, dans le hadith, il a dit Fasfetu fi salat. Elle l'a rencontré par hasard en train de prier. Donc, elle a cité le mot hasard dans le hadith. Et aussi dans ce que j'ai dit de Tamim Deri, lorsqu'ils étaient sur la barque, il a dit Fasadafna bahran ha'ijan. On a trouvé par hasard une mer démontée. Et le hadith du prophète qui dit que chaque vendredi, il y a une heure, la yusadifu un muslim. Il n'y a pas un muslim qui la rend par hasard cette heure sans que Allah ne lui donne, ne lui exauce. Il a dit sadafa, c'est-à-dire ce qu'on dit nous par hasard. Naam. Al-Muhim. Pour les impôts, j'ai entendu une fois, ça fait très longtemps, une fatwa de Cheikh Al-Albani, où il dit que, sans mentir, je peux lui citer le minimum. Je suis pas obligé de tout lui citer. Parce que l'impôt, l'argent qui va à l'impôt, c'est haram. Il me prend mon argent. En islam, il y a la zakat, il n'y a pas l'impôt. Vous avez compris? Donc, sans mentir, je ne lui déclare pas tout. Deuxièmement, en payant les impôts, naam, je ne suis pas devenu kafir. Pourquoi? Parce que je ne reconnais pas le statut des impôts. Je le fais par contrainte. C'est-à-dire, si on va pas me prendre mon argent en me donnant des amendes, ou alors on va me mettre en prison ou me fermer mon usine, j'aurais pas payé les impôts. Donc c'est une preuve que si je paye, c'est seulement par contrainte. Sinon, je paye pas. Donc je suis en train de payer en détestant les impôts. C'est pour cela que je ne deviens pas kafir bi'idhnillahi ta'ala. Fadlan.
Barakallah fait comme cher. Allahu alam, il y a une question de tout faire qui demande, votre fatwa, cher, est-elle spécifique pour les personnes en France?
D'abord, c'est pas une fatwa. C'est les grands savants qui donnent la fatwa. Moi, je suis juste, je te dis ce qu'ont dit les savants. Je te dis ce qu'a dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Et ce n'est pas spécifique pour les personnes en France. C'est en général, naam, ce que disent les savants sur les impôts. Ce que disent les savants musulmans sur les impôts. Que les impôts sont interdits en islam. Celui qui m'a pris les impôts a pris quoi? A pris, yani, du feu. Car il m'a pris mon halal, qui est haram pour lui. Vous avez compris? Et le prophète alayhi sallam a dit, La yahillu malu mri'in muslim illa bi tibatin min nafsihi. Il a dit, l'argent du musulman, les biens du musulman, ne sont permis que par sa permission. Et il a dit, inna amwalukum wa a'radukum. Il a dit, wa dima'ukum aussi, dans Hajjat al-Wada'. Il a dit, haramun alaykum. C'est haram. Personne n'a le droit de prendre de quelqu'un un sou ou quelque chose de ses biens, sauf si lui, il consent, bi'idhnillahi ta'ala. Et les impôts, je ne consens pas, et il m'a pris mon argent sans que je le veuille. Fadal.
Barakallah, fait comme cher. Question suivante d'une sœur qui demande. La plupart des musulmans de nos jours pratiquent un ou plusieurs annulatifs de l'islam. Ils le font par ignorance. Tout ça parce qu'ils n'apprennent pas. Donc doit-on penser que la plupart des musulmans sont donc en fait mécréants? Barakallah, fait comme cher.
Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah dit, c'est une règle, il faut l'apprendre. Contrairement aux takfiriens qui sont contre cette règle. Qu'est-ce qu'il dit, rahimahullah? Il dit, personne ne devient kafir jusqu'à ce qu'il sache que ce qu'il a fait fait sortir de l'islam. Apprenez la règle. Personne ne devient mécréant jusqu'à ce qu'il sache que s'il fait cette chose, il devient mécréant, et ensuite il l'a fait. Vous avez compris? Donc la plupart qu'a cité ici la personne, elle dit ne savent pas, ce sont des ignorants. Donc, en étant ignorants, ils ne sortent pas de l'islam. Reste quoi? Qu'ils auront, wallahu ta'ala, des péchés, beaucoup de péchés, pour s'être détournés de la quête de la science, qui est une chose obligatoire pour chaque musulman. Wallahu ta'ala, a'lam. Tfadla.
Barakallahu fikoum, cher. Question suivante d'une sœur. J'aimerais savoir, inshallah, ce qu'est l'intelligence en islam. Être intelligent, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'un non-musulman peut avoir droit à l'intelligence, comme certains génies, comme ils le disent? Non, ça fait partie du cours, cher.
Pourquoi les impôts, ça fait partie du cours? L'intelligence, disons, se divise en deux. Le vrai intelligent, c'est qui? C'est qui le vrai intelligent? C'est celui qui a connu Allah Azzawajal. Il l'a adoré et, Inch'Allah Ta'ala, a préparé sa place dans le paradis. A fait des choses pour que sa place lui soit préparée dans le paradis. C'est celui-là le vrai intelligent. C'est celui-là le vrai en islam. Car à quoi ça sert que tu sois ce qu'ils appellent eux un génie, que tu sois Einstein. Et si tu meurs, tu vas te trouver éternellement en enfer. À quoi t'a servi ton intelligence? À quoi t'a servi ton intelligence? Donc en islam, c'est ça le vrai intelligent. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets, il dit, est-ce que vous ne voyez pas ceci? Est-ce que vous ne remarquez pas cela? Est-ce que vous ne méditez pas sur les cieux et la terre? Il dit, il y a pour cela, pour les bien doués d'intelligence, il y a des versets. Donc, ça, ce sont ça les vrais intelligents. Ensuite, la deuxième intelligence, c'est l'intelligence qu'on appelle, yani, dans les matières, par exemple, en parlant d'une personne, on dit cette personne comprend vite, cette personne est intelligente, cette personne, c'est-à-dire, elle remarque vite les choses, et comme ça, elle donne vite le résultat. Ça existe. Et pas tous les gens ont la même intelligence. Il y en a qui sont plus doués que d'autres. Voilà, inshallah ta'ala, les deux intelligences qu'il y a. Et le meilleur intelligent, c'est celui qui, son intelligence l'a aidé pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour se trouver au paradis, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadlal.
Barakallah, fait comme cher. En fait, j'avais estimé que la question sur les impôts était en rapport avec les lois des koufars. Est-ce que ça faisait sortir de l'islam ou pas? Et pour celle-ci, je viens de la recevoir, donc je ne l'avais pas encore déchiffrée. Al-Mohim, question suivante. Est-ce que si on déteste une chose de l'islam, non pas parce qu'elle vient d'Allah, mais plutôt à cause des détracteurs de l'islam qui ont enlaidi la charia ou les choses obligatoires de l'islam? Est-ce qu'on devient un mécréant par cela? Car je donne un exemple, parfois des femmes n'aiment pas la polygamie, elles pensent que c'est injuste, ou des hommes n'aiment pas la barbe, ou ils trouvent que cela n'est pas beau, ou cela fait peur. Donc est-ce qu'on devient mécréant en ayant de telles pensées chères? Barakallahu fikoum.
Non, si la personne sait que la polygamie a été légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala, mais ne l'aime pas. Non, et dit pourquoi Allah a légiféré cela, c'est injuste. Il devient kafir. Sauf si la personne dit la polygamie existe. Et Allah ta'ala l'a légiféré, mais moi je voudrais un mari qui soit pas polygame, qui ne soit pas polygame. Ça c'est permis. Je voudrais que mon mari ne soit pas polygame, c'est tout. Mais qu'Allah Ta'ala ait légiféré la polygamie, je l'accepte. Je suis d'accord. Ça existe. Y a une grande différence entre les deux. La même chose pour la barbe. Tu dis la barbe, par exemple, je laisse pas la barbe. Je me rase la barbe. Mais je reconnais que la barbe, dans ce cas, Naam, tu es toujours musulman et tu as des péchés pour l'avoir rasée. Mais si tu dis la barbe, c'est pas bien et c'est terroriste, etc. Naam, alors que tu sais que ça vient de dans la charia, la personne devient kafir, a'oudou billah. Naam. Parce que le musulman n'a pas à se complexer devant les kuffars. Le musulman n'a pas à, ou plutôt son complexe devant les kuffars ne doit pas le pousser à renier une chose légiférée par Allah. Vous avez compris? Il se peut qu'une personne soit faible et par conséquent complexée devant un kuffar. Mais il ne faut pas que mon complexe me pousse à renier une chose légiférée par Allah. Il y a une grande différence. Vous avez compris? Je donne un exemple. Je suis complexé devant le kofar, je ne vais pas me voiler. Je vais rester mutabarrija. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est un grand péché. Mais de là à renier le voile et dire non, je parle avec les Français, les Kofars, je leur dis non, il n'y a pas de voile en islam. Il n'y a pas, alors que je sais qu'il y en a. Je suis devenu kafir. Pourquoi? Parce que j'ai renié. Je sais qu'il y a et j'ai dit il n'y a pas. Plutôt, quant à la première, non. Elle sait qu'il y a, mais elle ne l'a pas mis. Elle aura de grands péchés. Mais elle n'est pas kafira. Voilà. Tfadlal.
Barakallahu fikoum, cher. Question suivante d'une sœur. Je voulais savoir si le fait de ressentir de la. C'était sur la polygamie, donc, alhamdoulilah, vous avez répondu. Question suivante. Si... Je voulais savoir si le. Ah, ça, c'est hors sujet. Afwan, cher, parce que j'ai reçu une question à l'instant, donc je les découvre. Cher, je suis malade depuis très longtemps. J'ai fait ruqya et on a découvert un djinn et un sihr. Parfois, il m'arrive de désespérer qu'Allah me guérisse. Suis-je devenu kafir par le fait de désespérer? Barakallahu fikoum, cher.
J'ai pas compris la question, Barak Lawfik. Ensuite, il y avait des coupures. Tfadlal.
La personne demande, cher, s'il arrive à une personne de désespérer qu'Allah la guérisse, est-ce qu'elle devient kafir? Est-ce qu'elle devient mécréante par le fait qu'elle désespère donc de la miséricorde d'Allah Azzawajal et de la guérison d'Allah? Barakallahu fikoum, cher.
La personne en islam n'a pas le droit de désespérer. N'a pas le droit de désespérer totalement. Il est possible qu'une personne désespère, mais pas totalement. C'est-à-dire, j'ai le début de la désespérance, mais je dois me ressaisir et dire à Oudoubla Mishtarajim, Inna Allah Azza wa Jalla ala kulli shay'in. Amaru idara da shay'in, an yaqul lahu kun fayakun. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il veut une chose, il lui dit soit et elle l'est. Soit et elle l'est. Le feu qui est très brûlant, quand Allah Ta'ala a voulu qu'il brûle pas. Brûle pas Ibrahim, il ne l'a pas brûlé. Pourquoi? C'est Allah Ta'ala qui a voulu. Donc, personne n'a le droit de désespérer, mais doit plutôt, yani, s'il a désespéré, demander à Allah subhanahu wa ta'ala pardon, naam, et ne plus refaire cette chose, inshallah ta'ala. Tfadlal. Ensuite, il est possible que la personne désespère par rapport à elle. Elle dise, je désespère dans le sens que je suis quelqu'un de très mauvais et que je sais que Allah la guérison, par exemple. J'ai trop fait de péché, j'ai ceci, cela, je ne pense que du mal, etc. C'est pour ça que c'est une sorte de punition. Mais ce n'est pas comme quelqu'un qui va désespérer et dire que yani, Allah Ta'ala ne peut pas. Allah Ta'ala ne peut pas de me guérir. Non, je désespère qu'une solution vienne de lui. Car il ne peut pas. Ah, dans ce cas, ça rentre dans le coffre, a'oudhou billah. Non, tfadlal.
Les questions ayant un rapport avec le cours sont finies. Je vous pose une dernière, chère. Ensuite, à vous de voir si on rentre dans les autres questions ou si vous devez partir. Donc, la question est, est-il permis de faire partie d'une association de défense d'intérêts telle que les associations de consommateurs ou bien les associations syndicales dans les entreprises pour défendre les salariés par rapport à l'abus de pouvoir du patronat? Est-il permis de financer ces organismes ou est-ce une forme de shirk? Barakallahu fikoum pour la patience que vous, et le temps que vous nous accordez, cher.
Je dis, Allah azza wa jal alam. Je dis, Allah subhanahu azza wa jal alam. Il vaut mieux éviter ces associations. Parce que la plupart, d'abord, il n'y a pas d'association sans loi. Il faut des lois. Il y a le régime intérieur de l'association. Et la plupart de ces lois, si vous allez bien chercher, vous trouvez que pas mal de ces lois, yani, sont à l'encontre de la charia. Qui n'est pas permis telle ou telle chose, ou alors que telle ou telle chose est obligatoire, ou alors qu'il doit payer de force 10%, je ne sais pas quoi, pour cette chose, et comme ça, tu vas trouver des lois qui sont vraiment à l'encontre de la charia. Non. En islam, et chez les salaf en particulier, il vaut mieux s'éloigner des associations en général, même des associations yani ce qu'on appelle musulmane, à caractère islamique. Non, l'association, il faut s'en éloigner au maximum. Surtout les associations qui ont des rentrées d'argent. Des rentrées d'argent. Non, tu vas te trouver noyé avec quoi? Avec des problèmes d'argent et des problèmes de vol et des problèmes d'escroquerie et je ne sais quoi. Je ne sais quoi encore. N'a quoi encore. Non. Voilà, inshallah ta'ala, ma nasiha. Ensuite, je vous donne rendez-vous, inshallah ta'ala, pour mercredi, bi'idhnillahi ta'ala, car je suis fatigué, bi'idhnillahi ta'ala. Barakallahu fikoum d'avoir assisté. Puisque Allah azzawajal nous apprendre davantage et nous aider à pratiquer ce qu'on a appris. Subhanakallahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikoum, shukran, jazakallahu khair.